Alors bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Avec plaisir de reprendre un cycle Betrat Hashem de cours. J'espère qu'on apprendra beaucoup de choses. Alors le premier thème, donc ce thème qui a été choisi sur la remise en cause, qui est bien avec cette période et qui est bien dans toute l'année, t'arrives à comprendre que c'est un phénomène un peu spécial. Pourquoi la remise en cause, c'est quelque chose qui trouble tellement la personne? Pourquoi c'est quelque chose qui est tellement difficile? Une personne maintenant, elle doit changer, elle doit évoluer, elle doit changer d'avis, elle doit se remettre en cause. Alors pourquoi c'est tellement difficile? A priori envers l'autre, déjà c'est difficile de se remettre en cause envers l'autre, de se remettre en cause envers Hachem aussi, dans la relation avec Hachem, et même de se remettre en cause envers soi-même. Que quelqu'un, il arrive à prendre ce recul-là, de dire est-ce que j'ai fait c'est bien, c'est pas bien, de se regarder, de se juger. Pourquoi c'est tellement difficile et qu'est-ce qui empêche l'homme en fin de compte de le faire? Comme tu parles, alors tu te tais, alors tu fais du bien, tu fais du mal. Qu'est-ce qui se passe que maintenant quelqu'un, quand il s'agit de se remettre en cause, c'est tellement difficile et quelles qualités il faut développer pour y arriver? Alors le Rav Dessler, il donne un exemple déjà au niveau intellectuel. Il dit, quelqu'un qui voit un professeur qui fait un exercice de mathématiques. Donc il est en classe de mathématiques et le professeur, il écrit l'énoncé. Avec cet énoncé, on va faire un exercice. Maintenant, en plein milieu de l'énoncé, alors qu'il a fini, il a écrit la moitié de l'énoncé, le professeur, il doit sortir. Il y a un coup de téléphone, il sort. Alors l'élève, il est en train de regarder l'énoncé. Maintenant, il n'y a que la moitié de l'énoncé. Mais quand même, il dit déjà, d'après la moitié de l'énoncé, il commence à faire des calculs. On pourrait dire comme ça, on pourrait faire comme ça. Il fait tout un calcul. Après, le professeur, il rentre. Et il dit, maintenant je vais vous marquer la fin de l'énoncé. Et il marque la fin de l'énoncé. Et l'élève, il recalcule. Maintenant, au moment où il a fait les premiers calculs, il savait très bien qu'il n'avait pas tout l'énoncé. Et que quand on va lui donner le reste de l'énoncé, il fallait qu'il refasse le calcul. Mais quand même, le fait qu'il a déjà fait un calcul une fois, alors maintenant, inconsciemment, il va essayer de vérifier, en refaisant le calcul, que le premier calcul était le bon. Alors ça, il appelle ça le Rav Dessler, la désagréable impression d'avoir à se remettre en cause. Oui, c'est pareil dans une discussion. Tu parles d'un sujet avec quelqu'un, et la personne elle s'entête, et je ne suis pas d'accord, et c'est pas comme ça que je suis, c'est pas mon opinion, et je veux pas. Tu dis, mais attends, mais franchement, dis la vérité. On est comme des frères, on se connaît très bien. Dis-moi la vérité, depuis quand tu réfléchis à ce sujet? Eh bien, j'ai jamais réfléchi, c'est la première fois, quand tu m'as posé la question, c'est la première fois de ma vie que j'ai réfléchi à ça. Donc l'idée que tu as eue, elle est nouvelle. Oui, elle est toute nouvelle, c'est pas un truc sur lequel tu as travaillé pendant des années. Non, c'est nouveau. Alors pourquoi tu t'entêtes tellement à prouver que tu as raison? Peut-être t'as tort. Regardez cette feuille, par exemple, elle est là. Vous voyez, elle est là. Alors je la mets comme ça. C'est pas un effort plus grand de la mettre comme ça, que de la mettre comme ça, ou de la remettre comme ça. Alors pourquoi chez la personne c'est tellement dur? Il va se battre pour prouver qu'il a raison, et peut-être ça va amener de la haine et des nerfs. Pourquoi? C'est pas grave. Oui, non. Des fois on a raison, des fois on a tort. Pourquoi est-ce que l'homme il n'est pas élastique? Comme si maintenant il faut renoncer à quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il va falloir que je reconnaisse que j'ai tort, que je me suis trompé. C'est très très dur. Comme si la réalité elle me fige. Oui. Alors il y a l'idée que je me fais de moi. Après, il y a l'idée que les gens se font de moi. C'est très, très dur, le regard des autres. C'est très dur. Il y avait un rave. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en haut, quand il était chez lui à la maison, il mettait en haut sa veste, sa chemise, sa cravate, et en bas, un pantalon de caleçon. Vous savez, les pantalons qu'on met en dessous les pantalons, là, ouais, un caleçon. Mais ça fait complètement ridicule. Pourquoi? Exprès, il faisait ça pour pas avoir une image. Où est-ce que je veux dire? Bon, j'ai pas dit que je le ferais, mais c'est quoi l'idée? C'est le dire, est-ce qu'un jour tu vas décider de ne plus vivre dans le regard des autres? Parce que d'un côté, ça te fige, ça te pose, et après tu commences à avoir honte, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais en fin de compte, tu n'es jamais objectif. Tu peux jamais, au fond, qu'est-ce que tu es? Parce que peut-être tu es un acteur, tu es tout le temps en train de jouer un rôle. C'est comme quelqu'un, quand vous lui dites, j'ai fait une photo, il pose. Il y a des gens, toute leur vie, ils posent. Alors au travail, ils ont une certaine pause, à la maison, ils ont une autre pause, avec leurs filles, ils ont une pause, avec leurs garçons, ils ont une pause. Combien ils ont de pauses, en fin de compte? Mais ils ne sont jamais eux-mêmes. Alors le problème, c'est que si on vit tout le temps dans le regard de l'autre, alors comment on se remet en cause? Si on vit en repère par rapport à notre orgueil, comment on se remet en cause? Comment est-ce que quelqu'un il peut changer? Comment est-ce que quelqu'un il peut être élastique? S'il se rend compte qu'il a raison, s'il se rend compte qu'il a tort, comment est-ce qu'il peut, se promener, comment il peut décider? Alors, c'est écrit dans le Messilat Yesharim, Kasher mitbonen à Adam Becheto, lorsqu'un homme y réfléchit à sa faute, ou Makir Be'avla, oui, et qu'il connaît bien l'erreur qu'il a fait. Verotse ki beshum ofan lo ayana ase adava. Il aurait voulu que la chose n'arrive jamais. Ou mitraret harata gdola, et qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Ke akirat aneder. C'est comme quelqu'un qui va déraciner un vœu. Il y a une loi. Quelqu'un, il fait un vœu. Il a fait un vœu. D'accord, il s'interdit le chocolat ou d'aller chez sa belle-mère. Il a fait un vœu. Alors, maintenant, il supporte plus le vœu. Il n'arrive pas à tenir le vœu. Alors, il va chez un rave. Alors, il y a deux manières. Soit quelqu'un, il va faire Atarat Nedarim. Il va permettre le vœu. Soit quelqu'un, il va faire Akirat Aneder. Il va déraciner le vœu. Déraciner, ça veut dire que tu vas aller jusqu'à la racine de la chose et tu vas l'enlever. Maintenant, c'est bizarre que le Messilat Yesharim, il a comparé. Il a comparé le fait que quelqu'un il va regretter, il va changer, il va évoluer, au fait qu'on va enlever un vœu. Mais quel vœu? Il n'y a pas de vœu ici. C'est bizarre. Quelqu'un, il a fait une faute. Alors, c'est considéré que comme s'il a fait un vœu. Alors, on dit maintenant, quand il fait Teshuvah, il faut qu'il enlève le vœu. Mais quel vœu? Il n'a pas fait de vœu. Alors, il faut bien comprendre. Un vœu, c'est quoi? C'est un engagement. D'accord? Moi, je suis là, ici, et maintenant, je dis, je vais faire cette chose-là. Je vais m'engager à faire ça. Je vais interdire cet objet-là. Je vais interdire ce type de comportement, ce type d'attitude. Ça veut dire quoi? Ça m'engage à moi. J'ai pris ma parole à moi, j'ai pris ma volonté à moi, je l'ai mis là-dedans. Ça, c'est pour un vœu. Donc, c'est quoi un vœu? C'est comme une espèce de catalyseur de volonté, comme un laser. J'ai pris ma volonté, je l'ai mis là. Quelqu'un qui a une parole, quelqu'un que quand il dit quelque chose, il le fait, c'est un engagement, c'est très fort. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du ratson, ça vient de la volonté. Donc, quelqu'un, il peut prendre sa volonté, formuler des mots, et à partir du moment où ces mots ont été prononcés, il est engagé par cela. Pourquoi? Parce que la volonté, elle vient de la neshama. Et l'âme, elle est infinie. Donc l'âme, elle donne la vie, l'âme, elle donne la force, l'âme, elle donne la parole. Quand quelqu'un donne sa parole, c'est comme s'il donnait une partie de son âme. Donc j'ai mis ma neshama dans quelque chose, j'ai mis ma volonté dans quelque chose, donc c'est quelque chose de très fort. Et en plus, c'est une expression de vie. C'est-à-dire que ça me représente. C'est moi, j'ai vécu ça, c'est ce choix que j'ai fait, c'est moi qui suis dedans. Donc là, ça va bien quand ça correspond à quelque chose de positif. Le problème, c'est que des fois, ma volonté, elle m'échappe. La volonté, elle m'échappe, pourquoi? Parce que c'est vrai que la nature profonde de la volonté, elle vient de la neshama, mais quand elle passe à l'intérieur de moi, elle part de ma neshama, elle rentre dans mon nefesh, elle rentre dans ma personne à moi. Alors là, il y a deux pôles. Il y a un pôle qui s'appelle Yetzeratov, un pôle qui s'appelle Yetzerara. Un bon côté, un mauvais côté. Une tendance vers le bien, une tendance vers le mal. Si moi, je n'ai pas bien construit mon Yetzeratov, c'est-à-dire que je n'ai pas bien construit ma maturité, ma personnalité, alors il va se passer ce qu'on appelle, en psychologie, une dérive du flux existentiel. Mon énergie, l'énergie de mon âme, quand elle n'est pas maîtrisée par moi, elle va être maîtrisée par le Yetzer Hara. Pour ça que souvent je vous ai donné l'exemple, quand la personne elle dit « ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, les mots m'ont échappé, c'est trop difficile, ce n'est pas de ma faute. » À chaque fois, en fin de compte, que j'ai perdu le contrôle de mon énergie, que j'ai perdu le contrôle de ma volonté, donc la volonté elle existe mais ce n'est plus la mienne. Alors le problème, c'est que tant que moi je n'ai pas déterminé qui en moi décide de quoi, et que moi je m'identifie à celui en moi qui décide à ma place, c'est pour ça que les gens ils disent « je fais ce que je veux » et après, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Tu dis « mais pourquoi tu regrettes ?» Puisque c'est ce que tu voulais. Alors il dit « non mais, c'est pas vraiment ce que je veux, au fond c'est pas ce que je veux. » Ou alors il te dit, tu sais quoi, je ne sais pas ce que je veux. Il veut le shalom, il se bagarre toute la journée. Il veut la confiance, il n'arrête pas de mentir. Il veut l'honnêteté, il vole. Il ne sait pas qui il est en fait. Ouais. Alors on dit en français qu'il s'est identifié au mal qui est en lui. Mais au fond, ce n'est pas lui. Donc comme ce n'est pas lui, il n'est ni lui, ni pas lui. Il n'est personne. Et cette logique-là, c'est que, en fait, l'homme, il est prisonnier de lui-même. Tant qu'il ne se prend pas en main, il est prisonnier de ses pulsions, il est prisonnier de ses faiblesses, il est prisonnier de sa bêtise, il est prisonnier du regard de l'autre, il est prisonnier de l'ignorance, il est prisonnier. Maintenant, tant qu'un homme ne veut pas se libérer, il est prisonnier. C'est ça la guerre, la vraie guerre. Les gens ils croient que la guerre, c'est le Vietnam et c'est les Palestiniens. Non. La vraie guerre, c'est à l'intérieur. Tu as une guerre à l'intérieur. Ouais, une vraie guerre, très forte. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux t'arranger avec ta femme ou tu veux avoir raison ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que ton enfant, il soit le meilleur de lui-même ou tu veux qu'il devienne ce que toi, tu n'es pas devenu ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est une guerre. C'est une vraie guerre. C'est dur. Maintenant, le catalyseur de cette guerre, c'est la remise en cause. C'est là que tu vois. Si tu as du mal à te remettre en cause, c'est que tu as perdu la guerre. Si tu te remets facilement en cause, c'est que tu as gagné la guerre. Alors tu décides où tu as gagné la guerre, où tu as perdu la guerre. Il dit maintenant, quand quelqu'un, et c'est là que ça que c'est très fort, c'est que si quelqu'un, encore une fois, il s'est identifié à son Yetzer Hara et qu'il n'arrive pas à maîtriser ses choix, et que lui-même, il est tiré par quelque chose qu'il ne veut pas et que c'est plus fort que lui, et bien pour lui, la Avera, la faute, c'est un éder. C'est comme un vœu. C'est pour ça qu'il a du mal à se remettre en cause. C'est pour ça qu'il a dit que la Teshuvah, c'est comme Akira Taneder. Il faut aller déraciner. Et c'est vrai. Tu vois les gens, comment ils s'entêtent. Bon, écoute, c'est vrai que tu n'es pas Shomer Shabbat. Mais tu n'as pas grandi dans le milieu. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas pris les lois. Oui. Tu ne connais pas l'importance. Oui. Alors maintenant qu'on t'a expliqué, c'est bon, tu peux faire Shabbat. Non. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pour qui tu te prends? Et de quoi tu te mêles? Mais tu es juif ou tu n'es pas juif? Tu es juif. Regarde la Brit Mila, par exemple. On a coupé court à toute discussion. À 8 jours, la chose était réglée. La Mila, la circoncision. Ouais. Donc, ben c'est pareil. À l'époque, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. À l'époque, tu ne savais pas Shabbat. Tu ne savais pas la cache-route. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. C'est tout. Quel est le problème? Non. Et pourquoi je dois changer? Et pourquoi je prendrais ça sur moi? Mais c'est rien. Le plus compliqué, c'est quand les gens, ils ont pris des choses sur eux et des choses, ils n'ont pas pris. C'est des trucs très bizarres. Ouais. Moi, je vois des gens, par exemple, je sais pas moi, ils mangent cachère. Ils mangent cachère. Mais ils mangent cachère. Tu donnes 1 million d'euros pour manger un bout de cochon, ils ne mangent pas. 1 million d'euros, ras véchalom. 1 million d'euros, ils ne mangent pas. Juste 30 grammes. Un petit morceau de cochon grillé, comme ça. Tu le manges, je te donne 1 million d'euros. Mais ça ne va pas. Mais garde ton argent. Bon. Et Shabbat? Ah non, Shabbat, c'est compliqué. Ça tombe le samedi, c'est trop difficile. Mais je ne comprends pas. Mais quelle différence? Ça, pour ça, tu es prêt à mourir pour la cache-route. Et le Shabbat, non. L'autre, c'est le contraire. L'autre, pour le Shabbat, il ne bougera pas. La cache-route, laisse tomber. Mais c'est bizarre. Si c'est des juifs à 2 vitesses. Ouais. Et quelle différence? Ça, tu l'as pris sur toi. Alors maintenant, c'est très fort. Je vous dis, des gens, ils ne savent même pas lire. Même pas étudier, même pas un chumash, même pas un sidour, rien. Mais cette mitzvah qu'il a pris sur lui, tu ne l'enlèves pas. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la même force, la même conviction dans la Avera. Essaie de l'enlever, cette Avera. Il va mourir. Il dit jamais. Plutôt mourir que d'arrêter de faire cette Avera. Mais ce n'est pas un éder. Comprenez ou non? C'est comme s'il a fait un vœu. J'ai fait un vœu de ne pas manger cachère. Et si je mange cachère, c'est comme une forme de trahison. Mais tu trahis qui? C'est bizarre. Parce que le langage, il est bizarre. Ah, qui rate un éder. Il a dit le Bessatéchari, c'est comme déraciner un vœu. Et encore une fois, déraciner, ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la racine de la chose et qu'on l'enlève. Parce que Atarat Nedarim, quelqu'un, il a fait un vœu. Alors, il va chez un rave, il va enlever le Neder. Alors, comment il fait? Atarat, c'est rendre moutard, c'est rendre permis. Donc, le Neder, c'est faire un interdit. Alors, maintenant, quelqu'un, il s'est interdit la cigarette. D'accord? Il a fait un vœu de la cigarette. Mais il n'arrive pas, il devient fou. Il va voir le rave, il dit, écoutez, je suis nerveux, tous les Shabbats, je m'énerve, je frappe ma femme, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors le rave, il dit, bon. Alors il dit, si tu avais su que ça allait t'amener à un tel état, est-ce qu'à l'époque, tu aurais fait le vœu? Alors il dit, je ne l'aurais pas fait. C'est comme ça qu'on enlève le néder. Si j'avais su que c'était tellement difficile, je ne l'aurais pas fait. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On revient à l'origine de la chose. On se remet dans la situation première, dans la cause première, et on dit, si à l'époque j'avais su que c'était comme ça, je ne l'aurais pas fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un, il veut changer quelque chose dans sa vie, oui, ou il va le faire superficiellement, c'est-à-dire à la dernière étape, il va changer, ou alors il va remonter à la source. D'accord ? Qu'est-ce que tu pensais quand tu as dit ça ? Qu'est-ce que tu voulais ? Et ça, dans toute la vie, c'est comme ça en vérité. Toute la vie, c'est comme ça. Parce qu'au fond, quand tu fais quelque chose, la chose, elle a démarré. Elle est passée dans un acte. Avant d'être un acte, elle était une parole. Avant d'être une parole, elle était une pensée. Et avant d'être une pensée, elle était une conviction. Et avant d'être une conviction, elle était une impulsion. Maintenant, toi, tu dois remonter à l'impulsion première. Quelle était ton impulsion première ? Comme on dit en français, on dit, bon, au fond, qu'est-ce que tu veux, au fond ? Déjà, ils croient qu'ils ne comprennent pas ça. Ils disent, ce que je veux. Non, au fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le penser ? Je vais bien chercher là-bas. Est-ce qu'à l'origine, c'était un bon esprit, c'était une bonne kavana, ou est-ce que c'était une mauvaise ? C'est possible. Celui-là, il a fait 10 ans de médecine. Au fond, il n'a jamais aimé la médecine. C'était pour faire plaisir à sa mère. Celle-là, elle s'est mariée. Elle dit, oui, je l'aimais plus, j'ai plus de sentiments. En vérité, depuis le départ, elle s'est mariée pour sortir de chez ses parents. Donc, puisqu'elle s'est mariée pour quitter ses parents, et que c'était l'origine première, et c'était la cause première, donc elle ne s'est pas mariée avec son mari. Elle s'est mariée avec un rêve qu'elle serait plus libre que sous le joug de son père. Alors qu'en fait, elle a changé de joug. Du joug de son père, elle est passée au joug de son mari. C'est pour ça qu'ils ont dit, les chrétiens, quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre... Hein, je rigole. C'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée ? C'est vrai qu'elle est claque, qu'elle les reçoit sur les deux joues. Mais c'est quoi l'idée ? C'est qu'au fond, on fond quelqu'un, hein, et ça, les gens n'arrivent pas à le faire. Pourquoi ? Parce que les gens, ils aiment bien la superficialité, ils aiment bien le mouvement, ils aiment bien la nouveauté, ils aiment bien... Non mais baba, un jour, tu vas poser les bonnes questions. N'aie pas peur. Pourquoi tu travailles ? Et j'ai dit, je travaille pour ma famille, mais tu vois jamais ta famille. Ah oui, t'as raison. Là, tu dis, pourquoi tu manges ? Je mange pour la santé. Mais t'as vu ce que tu manges ? C'est mauvais pour la santé. Ah oui, c'est vrai. Alors, pourquoi tu dors ? Je dors parce que j'ai besoin de me reposer. Un type qui dort 8 heures dans la journée, je pense qu'il doit être dépressif. C'est pas une question de santé. Tu devrais peut-être réfléchir un peu qu'est-ce qui va pas dans ta tête en ce moment. Ouais. Un type qui est tout le temps nerveux, il doit réfléchir pourquoi il est nerveux. Ah, mais c'est mon caractère. Mais non, parce qu'avec les clients, t'es calme. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il remonte à la source première. Et c'est très très bien ce langage-là qu'il a employé, un langage de Néder. Parce qu'au fond, dans la vie, toutes les directions qu'on prend, ce sont des engagements. Alors maintenant, dans un engagement, on a besoin de deux choses. On a besoin que ça soit toi qui t'engage. Et on a besoin de connaître la nature de ton engagement. Pas seulement les termes de l'engagement, la nature. Est-ce que c'était une nature positive ? Est-ce que c'était une nature négative ? Est-ce que c'était une nature d'aller vers l'avant ? Est-ce que c'était une nature de se débarrasser de quelque chose ? C'est le problème. Parce que quelqu'un qui fuit quelque chose, il va nulle part. Donc c'est très très important qu'à chaque fois que tu dis « je veux », il y a un « je » et il y a un « veux ». Ça a l'air idiot comme raisonnement. Ouais ? Quand tu dis « je veux », tu dois être sûr que le « je » c'est toi. Parce que peut-être qu'après tu vas dire « c'était pas moi ». La preuve, tu dis « c'est pas ce que je voulais dire, donc c'était pas toi ». Ouais. Et le vœu, il faut que ce soit vraiment un vœu. Pas que ça soit une impulsion, pas que ça soit une réaction, pas que ça soit le regard des autres, pas que ça soit la pression sociale. Parce que ça s'appelle pas vœu, ça s'appelle pas vouloir. Maintenant ça, si quelqu'un il a le contrôle et il a la connaissance de tout le cycle de sa réalisation personnelle, donc puisqu'il était là au début, ça ne le dérange pas de revenir au début. C'est ça la remise en cause. Mais celui qui n'était pas là au début, de n'importe quel domaine, oui, comme ce n'est pas lui qui a décidé, quand tu lui dis qu'il faut revenir, il dit, alors ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que je n'ai rien compris depuis le début. C'est comme les gens, par exemple, ils ont leurs enfants qui font teshuva. Bon, il y a pire comme maladie, oui, mais ça les énerve, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Pas parce que l'enfant, c'est mauvais pour lui, non. Parce que si l'enfant il a raison, ça veut dire que les parents ils ont tort. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent. En fait, ils s'en fichent que l'enfant, qu'il soit sectomoun ou là, qu'il soit templier ou qu'il soit juif ou Lubavitch, ça ne dérange pas. Ce qui dérange, c'est ça veut dire que j'ai tort. Si tu as raison, j'ai tort. Maintenant, toi, tu dois être content. Parce que l'enfant, il évolue. Regarde-toi, tu étais cordonnier, ton fils, il est médecin. Tu dois être content. Tu dis pas, ah, mais pour qui il se prend ? Tu dis, ah, vous avez vu, c'est mon fils le docteur. Alors si vous êtes juifs les deux, si ton fils il est plus religieux que toi, tu devrais être content. Non. Alors, c'est quoi qui est remis en cause en toi que ça te dérange? Comprenez? Si ton fils il est prix Nobel de mathématiques, tu ne te vexes pas. Tu ne dis pas pour qui il se prend. Toi, tu n'arrives même pas à faire les mots croisés. Lui, il a un doctorat de mathématiques. Si tu ne dis pas, tu dis, ah, c'est mon fils. Vous avez vu, c'est mon fils. C'est lui le master de mathématiques. C'est lui. Il a eu là, à Cambridge le premier prix de mathématiques. Je suis content. Pourquoi? Ah, il est intelligent. Ah bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de remise en cause. Il faudrait vraiment que quelqu'un, il ait la haine de ses enfants pour que la réussite de ses enfants le dérange. Il y a des gens comme ça aussi. Hein. Mais c'est très rare. On les enferme en général. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que quand quelqu'un, il doit remonter au ratson premier, à la première volonté, pour réussir à déraciner la chose. Alors, comment ça marche? Alors, on avait déjà cité cette Mishnah dans Pirkei Avot. Quand le Pirkei Avot, il dit qu'il a demandé d'aller choisir le meilleur chemin, adhérer, le meilleur chemin qu'un homme doit choisir dans sa vie. Alors, Rabbi Eliezer, il a dit Lev Tov. Que quelqu'un, il ait un bon cœur. On a déjà expliqué que le cœur, c'est pas le muscle qui envoie le sang. Le cœur, c'est le centre de la personne. Et que Tov, c'est quoi? C'est qu'il soit complet. Maintenant, Rabbi Nouyona, il dit c'est quoi Lev Tov? Il dit comme ça, Kelomar, Midat Aratson. Qu'une personne, elle ait la qualité de Ratson. Maintenant, c'est quoi Ratson? Nous, on traduit en général Ratson, la volonté. Mais en vérité, le mot Ratson, il a deux sens. Quand on parle de Ratson en tant que volonté, en tant que motivation, en tant que moteur, ça c'est Milashon Rats, qui court. Qu'est-ce qui fait courir quelqu'un? C'est son Ratson. Pourquoi une personne, elle court? Parce qu'elle a du Ratson. D'accord. Maintenant, il y a un autre Ratson. Ça c'est le Ratson actif. Mais il y a aussi un Ratson qui est passif. Par exemple, quand on dit Iyeh Ratson, que ce soit ta volonté. Alors maintenant, on ne parle pas du Ratson de soi, on parle du Ratson de l'autre. Maintenant, quand moi je voudrais que le Ratson de l'autre soit, donc qu'est-ce que je fais? Dans le rapport de coexistence que j'ai avec l'autre, je mets le Ratson de l'autre en priorité. Je voudrais ton Ratson. Je ne veux pas mon Ratson à moi, je veux ton Ratson à toi. Maintenant, quand moi je dis à propos de moi, Iyeh Ratson, ça serait bien que ça se passe comme ça. Que ce soit la volonté que ça se passe comme ça. C'est quoi Iyeh Ratson? Alors ça, c'est un Ratson qui est un Ratson de retenue. D'accord? C'est-à-dire que la volonté, je peux l'utiliser pour produire un mouvement, mais la volonté, je peux l'utiliser pour retenir un mouvement. Parce que ça demande un effort. C'est pour ça que je vous dis toujours que la Torah, elle récompense quelqu'un qui fait le bien, et la Torah, elle récompense quelqu'un qui ne fait pas le mal. Si vous avez dans la loi profane, vous allez au commissariat, vous dites, j'ai vu la petite vieille, son sac était ouvert. J'ai vu le porte-monnaie rempli de billets de 500 euros. J'ai mis la main, mais je ne l'ai pas pris. Alors, je voudrais une médaille. Il n'y a pas de médaille. Pourquoi? Mais Dieu, heureusement que tu ne l'as pas volé. C'est-à-dire que pour un goy, de ne pas faire le mal, c'est normal. De faire le bien, c'est bien. Tu as sauté du pont, tu as sauvé le petit garçon, on va te faire une médaille, la ville de Milan va t'offrir un truc, on va écrire ton nom, tu es un héros. Ouais? Dans la Torah, quand tu fais le bien, tu es un héros. Mais quand tu ne fais pas le mal aussi, tu es un héros. Alors que chez eux, tu es un zéro. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu dis, mais j'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Comment j'ai rien fait? Mais je voulais. Ouais. Je veux dire le Lashon Hara. Je l'ai là dans la bouche. Je connais le Lashon Hara. Je connais cette personne. Je connais l'impact. Et je sais que la personne à qui je vais le dire, ça va lui faire très plaisir. Et en plus, j'ai un compte à régler parce que c'est ma belle-sœur. C'est très... Ouais. Et là, ça brûle. Rien que je le dis. Après, je fais tes chouas. Et je ne le dis pas. Alors nous, on croit que c'est rien. En vérité, c'est faux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie exprimée, elle développe un mouvement, mais l'énergie contenue aussi, elle développe. C'est une très grande force. Ouais? Si c'est comme ça, ça veut dire que quand on dit Ratson dans ce sens-là, par exemple le Shabbat, on dit dans la prière Retse Bemenu Chatenu. Ça veut dire accepte notre menoucha. C'est comme si on prend notre Shabbat et on l'offre à Dieu comme un korban. Parce qu'un korban, il doit être accepté. Comment on dit accepter en hébreu? On dit ratsouille. Oui, ça veut dire il est agréé. Quand on dit en français, veuillez agréer, mes salutations. Veuillez agréer, ça veut dire veuillez accepter. Maintenant, quand moi, j'exprime la volonté, que toi, tu exprimes la volonté. Je voudrais ta bonne volonté. Maintenant, pour que ta bonne volonté s'exprime, il faut que je retienne la mienne. Et j'espère. On dit dans la prière, « Retse Hashem Elokeinu, Be'amecha Israël, ou les Tfilatam Shei. » Ça veut dire, on veut qu'Hashem accepte nos prières. Et ça, c'est quoi? Pour ça, on dit, « Tfilatam Tekabel Beratson, que tu acceptes leur prière avec volonté. » Il dit, cette logique, c'est que quand quelqu'un il demande le ratson de l'autre, quand quelqu'un il veut envers l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à dégager une énergie énorme de retenue. Maintenant, la Torah, elle enseigne que l'énergie de retenue, elle développe une force plus grande que l'énergie d'application. D'accord? Par exemple, ton fils, il a fait une bêtise, et toi, tu sais qu'il a fait une bêtise, et lui, il sait que tu sais qu'il a fait une bêtise, et tu dis rien. C'est dur. Parce que de lui dire, ça sert à rien, il le sait déjà. D'accord? Lui, il le sait. Maintenant, si tu veux lui dire pour que lui sache que toi, tu le sais, il sait que tu le sais, il voit ta tête. Et malgré qu'il sait que tu sais, et tu dis rien. Maintenant, deux solutions. Si c'est un complexé, il va dire, ouais, il s'en fiche de moi, même pas il me crie. Et si c'est un enfant équilibré, il va dire, il aurait pu me crier, et il ne me crie pas, alors ça veut dire qu'il a confiance en moi, donc moi je vais grandir. C'est-à-dire que l'énergie retenue, elle génère du positivisme. C'est très très fort, mais c'est dur. Ouais. Quand tu veux expliquer un truc à un enfant et tu connais la réponse. Tu poses la question et tu connais la réponse. Alors tu te retiens, et lui il se casse la tête. Tu te laisses le choix. Ça s'appelle que tu laisses l'autre exister. Mais pour laisser l'autre exister, il faut avoir confiance que l'autre, il peut exister. Maintenant, la question, elle est, est-ce que de la même manière que quand tu donnes à l'autre le droit d'exister, il peut exister, est-ce que ça, tu peux l'appliquer pour toi? Est-ce que tu peux te laisser exister? Donc, tu veux ou non? Encore une fois, puisqu'il y a cette tentation de dire, eh ben voilà, ben, je vais me mettre en colère, eh ben je m'en fiche, je vais dire des gros mots, et je vais voler, et je vais mentir, et je vais tricher. Alors, peut-être qu'un jour, tu vas dire, j'en ai marre de ne pas être moi-même et je vais me laisser exister. Mais la seule manière de laisser exister ton côté positif, c'est de maîtriser ton côté négatif. C'est la retenue. C'est dur, c'est une retenue. Ouais. C'est comme le Shabbat, par exemple. Ta femme, elle a fait 14 salades. Tu demandes toujours la salade qu'il n'y a pas. Tu dis, ah, il n'y a pas de fenouil. Bon, la fois d'après, elle fait 14 salades plus le fenouil. Le Shabbat d'après, il n'y a pas les betteraves. Il n'y a pas les betteraves. Mais pourquoi tu veux toujours la salade qu'il n'y a pas? Compte les salades qu'il y a. Pourquoi tu comptes la salade qu'il n'y a pas? C'est bizarre. C'est une tentation. Ton fils, il t'amène un 18, tu as une tentation de lui dire, pourquoi pas 20? Fais une mitzvah, ferme-la. Si tu ne peux pas dire chazak pour 18, tais-toi. Non, tu ne peux pas te retenir. Tu dis, combien il a eu le petit truc? Tu es numéro de combien de la classe? Pourquoi? Tu dis, mais c'est pour son bien, c'est pour qu'il évolue, c'est pour l'aider à grandir. Bon. Et les goïms, ils ont une expression. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le guéinam, il est, le parterre du guéinam, il est fait avec des bonnes intentions. Ne crois pas que les gens qui sont là-bas, c'est des gens qui étaient méchants. C'est des gens qui étaient méchants, mais avec des bonnes intentions. Tu vois, je t'ai torturé pour que tu grandisses. Toi, je t'ai insulté pour t'expliquer qui tu es. Toi, je t'ai fait honte pour que tu évolues. Toi, je t'ai maudit pour que tu réagisses. L'autre, il dit, mais tu m'as maudit. Oui, mais c'est pour ton bien. Donc, je vais te tirer une balle dans la tête. Comme ça, tu n'auras plus de migraines. C'est pour ton bien. Je vais te voler ton argent. Comme ça, tu n'as plus de problème de gestion. Ça veut dire que si la bonne intention... elle cachérise. Alors, il n'y a plus de faute, puisqu'on peut tout cachériser avec des bonnes intentions. Donc, c'est quoi la dernière tentation du tordu intelligent? C'est d'avoir une bonne intention. Maintenant, est-ce que tu es capable d'avoir la retenue de la bonne intention? Ouais. Pour te poser la question, est-ce qu'au fond, je ne suis pas un grand vicieux que je vais faire du mal à l'autre avec une bonne intention. La seule manière de savoir si ta première action, elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est pas de regarder ton intention, c'est de regarder qu'est-ce qui t'a poussé à le faire à l'intérieur, aller loin à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je veux au fond? C'est quoi mon problème? Pourquoi je me vexe? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je suis jaloux? C'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça, comme ça vient du fond de toi-même, ouais, et si tu vois que ça t'engage à 100%, ça veut dire que c'est un éder. Donc quelqu'un, il doit faire cet effort. De Akira, t'as un éder. Et maintenant, cette logique-là, c'est comme la souplesse. Il faut la travailler. Plus tu la travailles, plus elle est souple. Par contre, la personne qui ne travaille pas, elle est cassée. Dès qu'on lui demande de changer, elle est cassée. C'est pour ça que les gens, ils sont dans les extrêmes. Ou ils ont de l'orgueil, et si tu les remets en cause, ils se mettent à pleurer. Ou ils crient, ou ils pleurent. Ouais. Ou ils sont dans la revendication, ou alors ils sont dans la pitié. Pourquoi? 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 Oui, ouais, tu m'aimes pas, tu me donnes pas ce que je veux. Ou alors, eh ben, c'est comme ça, mais tu vas fermer ta... Pourquoi? Pourquoi c'est des extrêmes? Pourquoi c'est où tu cries, tu t'énerves, tu exiges? Ou alors tu te mets à mendier l'amour de l'autre? Sois normal. Tu es une personne normale. Tu dois te faire respecter en tant que personne normale. On va te donner normalement ce à quoi tu as droit. Non. Parce que tu as tellement peur que l'autre y refuse, alors tu cries. Ou tu as tellement peur que l'autre y refuse, alors tu mendies. Donc, deux solutions. Soit tu ne connais pas ta valeur, et ou tu surestimes ou tu sous-estimes, ouais. Soit en vérité, tu sais que tu n'as rien donné, c'est pour ça que tu te permets de crier. Quand vous allez au magasin, elle coûte combien la jupe? 20 euros. Tu donnes 20 euros. Quand tu as donné les 20 euros, tu attends la jupe. C'est normal, non? Tu as donné 20 euros. Après l'autre, elle a pris les 20 euros, elle a oublié de te donner la jupe. Elle a servi une cliente. Tu attends. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez? La jupe. Pourquoi tu restes? Mais j'ai donné 20 euros. Alors, tu sais que tu as donné 20 euros. Ouais. Donc tu demandes la jupe, c'est normal. Mais si tu n'as pas 20 euros, alors tu dis, donnez-moi la jupe. Elle dit, mais c'est 20 euros. Qu'est-ce que c'est une jupe pour vous? Vous les faites en Chine, ça ne vous revient même pas un euro. Allez, donnez-moi une jupe. Tu dis, non, madame, c'est 20 euros. Je peux vous faire une réduction, 5%, 10%. Mais là, vous voulez 100%. Ce n'est pas une réduction, c'est un hold-up. Pourquoi la personne, elle va mendier? Oui. Ou au contraire, pourquoi elle va exiger? Mais souvent, on trouve chez les enfants, les 13, 14, 15, 16, 17, on croit qu'ils ont de la chutzpah, ils ont de l'insolence. Ce n'est pas qu'ils ont de l'insolence, c'est qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Quand quelqu'un ne connaît pas sa valeur, ou il va s'énerver, « Ouais, et ben c'est comme ça, et ben oui, et ben voilà !» Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire quel moment, « Voilà papa, aie confiance en moi, je vais sortir ce soir. » Il ne peut pas dire ça. Alors il va dire, « Pourquoi tu ne me laisses pas sortir? Je fais ce que je veux !» Mais pourquoi tu cries? Tu es dans une prison. On t'a déjà pendu par les pieds, on t'a enlevé des doigts, on t'a rien fait. Ouais? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas demander gentiment. Parce que qui c'est qui va demander? Lui, mais lui c'est un gamin. Donc comme il n'a pas assez confiance en lui, comme il ne s'est pas assez construit, donc il n'a pas le contrepoids, alors il est obligé ou d'exiger ou de pleurer. Maintenant le problème, c'est que nous, on ne le fait pas avec notre père, on le fait avec Hachem. Les gens avec Hachem, ou ils exigent, ou ils pleurent. Ils exigent, ouais, c'est pas normal, et je suis très déçu, comment ça se fait? Le business, il marche pas, et c'est pas ce que j'attendais du mariage, et mes enfants, c'est pas ce qu'il fallait, et ça, et le magasin, et les... Oh, j'ai pas compris, tu cries qui, là? Tu cries le ciel, qui tu parles? À qui tu parles au bon Dieu? Tu t'énerves contre qui? C'est bizarre, non, cette nature? Il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, pourquoi mon père, il est mort? Et pourquoi la grand-mère, elle a le cancer? Et pourquoi ça, et pourquoi... Ils ont des revendications. Et j'ai pas compris, tu parles à qui, là? Dès qu'il est dans la rue comme ça, en train de s'énerver, ouais, 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 mais tu parles à qui? Tu t'énerves contre qui? Ah bah tu dis contre le bon Dieu, mais pour s'engueuler avec quelqu'un, il faut être du même niveau. Je sais pas si vous... Ouais. C'est comme si tu vas voir le grand patron de tous les hôpitaux d'Italie, et tu leur dis, et qui est spécialiste en cardiologie, tu lui dis, je pense que tu as mal fait l'opération. Toi déjà, pour ouvrir une boîte de conserve, tu t'y mets trois fois. Lui, il ouvre des cœurs toute la journée, tu vas l'expliquer comment il faut ouvrir un cœur. Alors le bon Dieu, il est un peu plus spécialiste que le cardiologue. Et tu as des questions avec lui. Donc pourquoi tu as des questions? Parce que soit parce que tu ne te rends pas compte de la personne à qui tu parles, ouais. soit parce qu'au fond, tu ne veux pas assumer ta responsabilité, la responsabilité de ta position. Que toi, tu es un homme et lui, c'est un dieu. Toi, tu es un serviteur et lui, c'est un roi. Comme tu n'es pas à ta place, tu débordes. C'est pareil. Ah, c'est difficile d'accepter. Ça, c'est le ratson de la retenue. Comme il faut éduquer les enfants, qui ne doivent pas avoir d'insolence. Ils doivent être bien éduqués. Pourquoi ? Mais c'est quoi éduquer ? C'est pas qu'il s'écrase. Non, il connaît sa place. Il sait qu'il a un enfant et toi, tu es un parent. Non, c'est pas que toi, tu dois t'imposer en tant que parent. C'est que lui, il doit connaître la hiérarchie. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a les professeurs, il y a les élèves, il y a le patron, il y a les employés. C'est normal. C'est la logique de la hiérarchie. C'est très important. Maintenant, ce qui est important dans la hiérarchie, c'est pas qu'il y en a un au-dessus et il y en a un au-dessous. C'est que chacun, il est à sa place. Parce que qu'est-ce qui est dangereux ? C'est quand tu n'es pas à ta place. Parce que quand tu n'es pas à ta place, tu ne vis pas ta vie. Maintenant, l'enfant, il se met à la place des parents. Alors, il a tellement de personnalité que les parents, ils font les enfants. Il dit, bah, fais comme tu veux. Moi, il est têtu, moi, j'en ai marre. L'enfant, il fait un caprice. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père au bout d'une demi-heure ? Tu sais quoi ? Allez, donne-lui. D'accord. Donc, en fait, l'enfant, il a fait le parent. Il s'est imposé. Ouais. Et le parent, il a craqué, il a fait l'enfant. Pourquoi ? Bah, tu crois parce que l'enfant, il a une forte personnalité. Non, parce que le parent, il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, il ne veut pas assumer. Comment on appelle en français quelqu'un qui ne veut pas assumer ? On l'appelle un caprice. Donc, en fin de compte, c'est l'enfant qui a été au bout de ses idées et l'adulte qui a fait un caprice. Un caprice de quoi ? J'ai pas envie d'assumer la prise de tête. L'autre, elle va se mettre à crier, elle va me saouler dans la voiture, elle va me faire le scandale dans le magasin, mais laisse-le faire le scandale dans le magasin. Laisse-le. Tu dis, mais j'ai honte, mais t'as honte de quoi ? Toi, tu penses à maintenant la honte dans le magasin, ou tu penses que pendant 38 ans, ce type-là, il va saouler le monde ? Parce que quand il a fini de te saouler à toi, il va saouler l'école, après il va saouler sa femme, il va saouler ses enfants, toute sa vie il va saouler les gens, celui-là. C'est normal, parce qu'il croit que sa volonté, elle est divine. Il faut lui dire. Maintenant, ça s'appelle, comment ça s'appelle cet exercice-là d'incapacité, d'accepter que ça ne se passe pas exactement comme tu veux, ça s'appelle la remise en cause. C'est un bon travail. C'est la remise en cause. Et ça, c'est la souplesse. Oui. Tu prends le métal, par exemple, le métal, il est dur. Tu le réchauffes, il s'assouplit. Tout peut s'assouplir. Le tissu, il s'assouplit. Le bois, il s'assouplit. Tout peut s'assouplir. Mais c'est un travail. Quand quelqu'un rentre dans cette logique de travail, alors automatiquement, sa personne, elle change. Si c'est ça, comment on appelle cette capacité maintenant qui me coûte énormément et qui, au fond, me fait évoluer ? On a dit, c'est la maturité. Et c'est ça ce qu'on appelle la chorma. Alors, elle dit la Gemara, dans Brachot Daf Yuzayin, Amarava, tachlit chorma, le but, l'objectif de la sagesse, teshuva ou ma'asim tovim. C'est quoi ? Ce sont les bonnes actions et la teshuva, le repentir. Il dit pourquoi ? Chez Loïe Adam, Koré Véchoné, il ne faudrait pas qu'un homme, il étudie la Torah écrite, la Torah orale, donc c'est déjà un grand érudit, ou Boret Be'aviv ou Be'imo, et il va rejeter, il va ruer dans son père et sa mère, ou Be'rabo et dans son rav, ou Be'mi chez Ougadon Mimeno, Be'chokma ou Be'minyan, ou dans quelqu'un qui sera plus grand que lui par sa sagesse ou par son âge. Ça veut dire quoi ? C'est tu vas voir quelqu'un, il a des connaissances, mais il n'a pas de chorma. Quelle est la différence entre la sagesse et la chorma Alors, entre la connaissance et la sagesse, c'est que la sagesse, c'est ce que tu es devenu grâce à ta connaissance. Par exemple, un livre, c'est idiot. Mais tu sais ce qu'il y a écrit dans ce livre ? Oui, mais le livre lui-même, il est idiot. C'est rare que tu peux parler avec un bouquin, il est idiot. Il y a des gens, ils font du copier-coller. Ils ont lu, ils ont appris. Après, est-ce que ça a mûri ? Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils sont devenus ? Alors nous, on dit « Tachlit Chochma » Rava, il a dit « Tachlit Chochma Teshuva ou Ma'asim Tovim » Moi, j'aurais dit l'objectif de la sagesse, mais c'est la connaissance du divin, c'est de faire un avec l'univers, c'est de percevoir les courants électroniques et cosmiques de l'espace. Moi, j'aurais cru que c'est ça, la sagesse. Pas du tout. Il dit « Pas du tout. Pas du tout. » Tachlit Chochma, le but de la sagesse, c'est quoi ? Tchouva, Ma'asim Tovim. Alors pourquoi est-ce que la tchouva, c'est un rapport avec la sagesse ? Moi, je dis au contraire. La teshuva, c'est pour les imbéciles. Pourquoi? Parce que pourquoi il est obligé de faire teshuva? Parce qu'il a fait des bêtises. Pourquoi il a fait des bêtises? Parce qu'il n'est pas chacham. Parce que s'il était chacham, il n'aurait pas fait des bêtises. La teshuva, c'est a priori ou a posteriori? C'est a posteriori. Ah, qu'est-ce que je te dise? Tu achètes une voiture. 2 mois après, tu l'emmènes au garage. Et il me dit, monsieur, c'est l'usure. Comment 2 mois, c'est l'usure? C'est les nouvelles voitures maintenant. Une nouvelle voiture, la boîte de vitesse, 40 000 km, elle est morte. Avant, c'était 200 000. Normalement, maintenant, non. 40 000, 30 000, 40 000, elle est morte. Tu dis, monsieur, ça n'est pas dans la garantie, c'est l'usure. Comment l'usure? Une boîte de vitesse, elle fait 40 000 km. C'est comme si tu mets ta veste, tu la mets, elle se déchire. Tu dis, mais je viens de l'acheter. Tu dis, c'est l'usure. Vous l'avez usée. C'est pas normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de l'usure, il s'élargit. Il s'est pareil maintenant. Un homme, il ne doit pas fauter. Pourquoi tu fautes? J'ai fauté, qu'est-ce que j'ai? Alors la Torah dit, puisque tu as fauté, alors tu dois faire tes chouvas. Puisque tu as fauté, tu dois faire tes chouvas. Mais si c'est ça, ça ne marche pas avec les mots. Parce que quand on dit, tahlit achorma tchouva, ouais, l'objectif, le but de la sagesse, c'est la teshuva. Donc c'est une teshuva qui vient à cause de la faute ou une teshuva qui vient sans la faute? Alors regardez ce qu'il dit. Le Rav Nathan Wartvogel, très connu, pour ceux qui ont étudié à l'écoute. Yesod la teshuva, le fondement de la teshuva, ou itkarvut l'Hashem, c'est un rapprochement avec Hashem. Velachen, c'est pourquoi. Itachen teshuva blochet, il peut exister un repentir sans faute. Sans faute. Tu me dis, j'ai pas fauté, pourquoi je vais faire teshuva? Il dit, she'en atshuva al het atzmo. Parce que la teshuva, elle n'est pas sur la faute en elle-même. Et la i, echitim tsa, l'itkarev l'Hashem. Mais c'est une occasion qui est donnée de te rapprocher de l'Hashem. Ve gamblichet, efchar l'itkarev l'Hashem. Et même sans fauter, tu peux te rapprocher de l'Hashem. Ça, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'était un degré de proximité avec Dieu. Ça n'a rien avec la faute. C'est seulement que celui qui a fauté, il est obligé de revenir. Ouais, comme tu as fait, tu t'es éloigné. Alors tu refais le chemin à l'envers. Donc là, il y a deux manières dans la teshuvah. Il y a la manière la plus connue, qui est quelqu'un qui a fait une erreur. Alors on lui dit qu'il doit revenir. La chouve, c'est revenir. Mais il y a une autre manière qui n'a rien à voir. C'est quoi? C'est que moi, je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux. Ça m'intéresse. D'accord? Je veux être proche d'Hachem. Il dit ça, cette logique-là, elle n'a rien à voir avec la faute. Donc ça veut dire que c'est comme si toi, tu es bien avec ton père. Tu es bien. Tu es bien. Alors tu entretiens cette proximité. Tu parles, tu dialogues, tu trucs. Il y a des gens, ils ne sont pas bien. Ils sont pas bien. Il y a eu des erreurs, il y a eu des manques de communication, il y a eu des malentendus, il y a eu des souffrances, il y a eu des complexes, il y a eu des amalgames, il y a eu des impositions, il y a eu des mots. Bon, alors il y a un malaise. Alors on dit, bon, bah, maintenant, il va falloir construire. Il faut prendre du temps, il faut créer la confiance, il faut trouver le dialogue, il faut poser les mots. Tu dis, mais pourquoi? Écoute, il m'aime pas qu'il ait chez sa mère. Tu peux pas. Tu es obligé de créer le pont. Ouais. Ou tu dis, mais c'est mon fils, c'est ma fille, je n'ai pas compris. Il faut que maintenant je fasse attention aux mots que je vais dire. C'est un problème. Elle est sortie de mon ventre et elle ne me parle jamais. Il y a des parents comme ça. Ils me disent, mais monsieur le rabbin, mes enfants ne me parlent jamais. Pourquoi? C'est compliqué, non? Donc je te dis, c'est marqué. Normalement, tu n'as pas besoin de revenir chez tes parents parce que tu es leurs enfants. Et l'autre 19 ans de thérapie parce qu'il n'arrive pas à parler à son père. Alors c'est très simple. C'est très simple et c'est très compliqué. Comme en général dans la vie. On a la teshuvah la plus connue, c'est quelqu'un il a fauté. Maintenant il y a une faute. Ouais. Cette faute-là, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Elle a entraîné une distance. Elle a entraîné une souffrance. Elle a entraîné une culpabilité. Elle a entraîné un malaise. Elle a entraîné une réorganisation de la vie et des priorités. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et j'ai pas envie, et ça me saoule, et c'est difficile, et c'est trop, trop dur, et c'est trop... Toute cette mousse-là que tu as créée, elle vient de quoi? Elle vient de la distance. Elle vient du complexe, elle vient des malaises. Mais ça, c'est parce que toi, dans la faute, tu as pris cette distance. C'est ça le chet. C'est ça le vrai chet. La vraie faute, c'est pas l'action que tu as fait. Parce que l'action que tu l'as fait parce que tu avais un vent de folie. La vraie faute, c'est la distance que tu as pris avec Hachem. Comme dans tout. Quelqu'un maintenant, tu l'as dit, voilà, je lui ai emprunté de l'argent pour une semaine. Ouais. Et au lieu de lui rendre au bout d'une semaine, tu l'as rendu au bout de 3 ans. Maintenant, tu n'as pas un problème avec l'argent. Lui, à la limite, tu lui rends l'argent. Mais il s'en fout de l'argent. Mais la confiance, c'est fini, baba. Donc toi, tu crois que ta faute, c'est parce que tu as traîné à rembourser. Et... Non, ta faute, c'est que tu as détruit la confiance. C'est tout. Moi, je croyais que j'avais un type assez sérieux en face de moi, je vois que j'ai un pauvre type. Moi, je croyais que j'avais un ami, je vois que j'ai un voleur. Je croyais que j'avais un homme honnête, je vois que j'ai un tordu. Donc, en vérité, c'est pas toujours ce qu'on croit qui a été détruit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper sur l'objet de la teshuva. Les gens, ils me disent, j'ai transgressé Shabbat, comment je dois faire le tikkun? Je dis, quel tikkun? Il me dit, comment je vais réparer ce que j'ai fait? Je dois faire teshuva sur quoi? J'ai dit, tu dois faire teshuva sur l'ignorance. L'autre, elle me dit, mais monsieur le rabbin, voilà, j'étais mal habillé, je suis rentré à la synagogue en mini-jupe et tout, avec un décolleté. Sur quoi je dois faire teshuva? Je dis, toi, tu dois faire teshuva sur l'incohérence. Parce que tu penses qu'à la synagogue, tu dois être bien habillé, et à la plage, tu dois être déshabillé. Donc, tu as un problème. C'est que tu penses que le bon Dieu, il n'est pas partout. Donc, il faudrait juste remettre où il est nulle part, où il est partout. S'il est partout, tu t'habilles bien partout. S'il n'est pas partout, alors tu peux t'habiller mal n'importe où, parce qu'il n'est pas. Donc là, la teshuva, elle n'est pas sur la pudeur, elle est sur la cohérence. Tu dis, j'ai le droit de faire du lashon hara sur celui-là et pas sur celui-là. Donc, tu as un problème. Ça n'a rien à voir avec les halakhot lashon hara. Tu as compris ce que je veux dire ou non? Donc, c'est des fois, les gens, ils se trompent d'objet de teshuva. Comme les gens, ils se trompent d'ennemis. Ouais? Par exemple, l'enfant, au lieu de... Il a rencontré un petit copain. La fille a rencontré un petit copain. Maintenant, le copain, il est un peu tordu. Alors, les enfants, les parents, ils disent, ma fille, je ne veux pas que tu côtoies ce garçon. Maintenant, elle dit, quoi? Eh bien, je vais tout sacrifier. Et elle ne veut plus parler avec ses parents. Et elle va fuguer. Elle va partir de la maison. Tu sais, je ne comprends pas. Ce type-là, tu le connais depuis 2 semaines. Ça va que tu es amoureuse. Nous, tu nous connais depuis 17 ans et demi. Comment ça se fait qu'on pèse tellement léger dans ton cœur qu'en 2 semaines, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus rien. On appelle ça en français se tromper d'ennemi. Tu te trompes d'ennemi. Moi, je te dis un truc pour ton bien et toi, tu m'en veux. Au lieu d'en vouloir à ton Yetzerara, t'en veux à ton père. Tu t'es trompé d'ennemi. Tu inverses les rôles. Ouais. Tu as tort et tu deviens victime. Tu es bourreau, tu deviens victime. Tu es méchant. Et ça, c'est le jeu du Yetzerara. Oui, pourquoi? Parce que si tu n'as pas cette qualité extraordinaire de la remise en cause, et qu'en vérité, c'est quoi cette qualité de la remise en cause? C'est la qualité du Emet. Ouais. Or, le problème du Emet, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, dans Emet, il y a Met. Dans Emet, il y a Met. Maintenant, quand toi, tu es prêt à mourir pour le Emet, oui, tu vas vivre. Quand toi, tu n'es pas prêt à vivre, à mourir pour le Emet, c'est le Emet qui va te tuer. On dit en français, la vérité qui tue. Mais n'en aie pas peur. Quand tu meurs pour la vérité, c'est ton Yetzer Hara qui meurt. Nous, on a, à la maison, on a une petite habitude. Quand il y a un enfant, par exemple, qui fait un caprice, ou qui se braque, ou qui se bloque, ou quoi, alors il pleure. Alors l'autre, il me dit, papa, elle pleure. Je dis, elle pleure? Où elle a mal? Elle me dit, je sais pas, elle est peut-être tombée. Je dis, non, elle a mal à la gava. Elle a mal à l'orgueil. Vous comprenez ou non? Elle a mal. Elle dit, elle a 6 ans. Elle dit, je veux m'asseoir là. Elle saoule sa sœur. Mais la sœur, elle est déjà assise. Alors, je veux m'asseoir là, je veux m'asseoir là. Je dis, non. Elle est déjà assise. Tu te mets à l'autre place. Alors, elle fait, elle a mal à la gava. Ouais. C'est pas, alors, ah, maintenant, tu dis, c'est normal, elle a 6 ans. Oui, mais là, elle a 18 ans, là. Ouais. Elle dit, je veux faire ça. Tu dis, ma fille, c'est pas bien pour toi. C'est pas un type sérieux, c'est pas un travail sérieux, c'est pas un endroit sérieux. Elle a mal à la gava. T'as compris ou non? Qu'est-ce qu'on fait pour les douleurs de gava? Alors la gava, c'est un truc spécial, l'orgueil. Plus tu vas dans le sens de l'orgueil, plus il augmente. C'est vrai que c'est marqué. Karov Hachem, les niches bérées, lève. Hachem, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu s'adresse que aux dépressifs? Non. Lève, c'est au singulier. Vous savez, non? Lévav, c'est au pluriel. Donc, quand c'est marqué Lévavecha, par exemple, c'est tes cœurs. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs. C'est pas ton cœur, c'est tes cœurs. Levav, c'est au pluriel. Lev, c'est au singulier. Donc lev, c'est quoi? C'est un. Maintenant, à l'intérieur de l'homme, on dit que l'homme, il est, son cœur est coupé en deux. Parce que Yetzerara, Yetzeratov. Donc, quand quelqu'un, il a cassé son Yetzerara, on appelle Nishbar Lev. Il a cassé le Yetzerara. Maintenant, bizarrement, quand tu casses le Yetzerara, tu dévoiles le Yetzeratov. Ça veut dire que la seule manière d'être bon, c'est de casser le nul qui est en toi. La seule manière d'être généreux, c'est de tuer le radin. La seule manière d'être courageux, c'est de tuer le peureux. La seule manière d'être travailleur, c'est de tuer le glandeur. Donc les gens qui te disent « Ah mais moi j'ai tué personne », ça veut dire qu'ils sont parfaitement nuls. On passe notre vie à tuer des gens. Mais chez soi-même. Donc quand tu casses ça, quand tu casses cette mida, c'est là que tu apprends la souplesse. Tu apprends la souplesse. J'ai raison, j'ai tort, c'est pas grave. Ou tu as, comment tu arrives à changer comme ça? C'est pas grave, pourquoi? Parce que tu cherches le émet ou tu cherches à avoir raison. Donc tu travailles la souplesse dans la recherche de la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il y ait le shalom à la maison ou tu vas imposer ta volonté? Si tu veux que le shalom, c'est quoi le shalom? Eh bien des fois c'est toi, des fois c'est pas toi. Mais le mouvement il continue. Si tu te braques, tu dis c'est comme ça. Donc tu casses le mouvement. Quand tu casses le mouvement, t'as tué l'histoire. Donc toi tu meurs un peu pour que le couple existe. Toi, tu t'effaces devant ta femme, elle s'efface devant toi, ça marche très bien. Tu dis, personne ne s'efface, il n'y a pas, premier qui meurt, baisse la tête. Bon, alors maintenant, on ne se parle même plus, c'est par avocat interposé. Et il faut un argent fou. Sur quoi? Sur notre gava, sur notre orgueil. Va lui parler, assis-toi, discute. Non, pourquoi? C'est difficile. Alors ça s'appelle que quelqu'un, il va faire un travail. Maintenant, ce travail-là, il est dans quel but? Dans le but de retrouver cette proximité qu'il a, il devrait avoir depuis le départ avec Hachem. Maintenant, comment on fait pour retrouver cette proximité? On se débarrasse de ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous sépare d'Hachem? La faute. Donc, comment on appelle se débarrasser de ce qui nous sépare de Dieu? La Teshuvah. C'est pour ça que la Teshuvah, elle est obligée de se faire sur trois plans. Harata, le regret. Ouais. Razivatachet, arrêter de fauter. Et Kabbalah Léatid, et se comprendre sur l'avenir. Pourquoi? Parce que prendre sur l'avenir, les résolutions. Kabbalah, les Atid. Prendre sur soi pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'importe quel acte que tu fais, n'importe quel acte, c'est une erreur de croire qu'un acte, c'est une ponctualité. C'est faux. Un acte, il a une racine dans le passé, ouais, il a un lien dans le présent, et il a des projections dans l'avenir. Donc quand tu veux changer, il faut que tu ailles chercher la racine du problème. Et ça, c'est la harata dans le passé. C'est-à-dire que tu vas bien analyser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que je suis arrivé à un truc pareil? Quels sont les endroits où c'est difficile pour moi? Quel genre de personne? Pourquoi j'ai été influencé? Quel manque de confiance j'avais? Quel manque de connaissances j'avais? Ça veut dire que tu vas aller creuser dans le passé de la faute. Après, tu vas aller creuser dans l'avenir de la faute. Parce que ça ne sert à rien. Ouais. Si toi-même, tu n'as pas géré les causes, eh bien, tu vas revenir à la même faute. Après, tu dis, oh, vous savez, Raph, je ne comprends pas. Les gens ils me disent, oh, j'étais chômeur Shabbat, après, j'étais plus chômeur Shabbat. Non, je crois que tu n'as jamais été chômeur Shabbat. D'accord? C'est comme je jette du béton. Je dis, ah ben, ça va faire un pilier à la fin. Ça va faire un tas de béton. C'est ce qu'on appelle en architecture un lèse-béton. Ouais? Et rien du tout. Tu veux faire un poteau en béton? Tu veux faire un poteau en béton? Il faut mettre un cadre en bois. Un cadre en bois. Après, dedans, il faut mettre des barres d'acier de 3 cm d'épaisseur, t'en mets 4. Et après, tu coules du béton dedans avec des graviers. Et après, tu mets à l'intérieur un vibreur, comme ça, il va bien se tasser. Après, tu attends que ça sèche. Et après, tu enlèves le bois et tu trouves un pilier qui va tenir un immeuble. Maintenant, à chaque fois que tu fais faire une mitzvah, à chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, il faut un cadre avec qui tu vas le faire. Ouais. Il faut des barres de fer, il faut des résolutions, il faut des engagements et il faut de la connaissance. Tu veux construire ton couple? Il faut un cadre, ça va se passer à la maison. C'est pas style, genre on est marié, on vit maritalement, Il faut un cadre. La choupa, le mariage, la maison, les règles. Non, un peu chez toi, un peu chez moi, un peu en boîte de nuit, un peu. Il n'y a pas de cadre. Après, tu dis, bon, viens, on engage. Allez, tu signes. Voilà, je signe la ketouva. Je signe le contrat de mariage. On se marie à la mairie. On fait les choses dans les règles. Allez, je t'en prie, tu sais, faut pas être ringard. Faut pas. C'est pas grave, tu sais, de toute façon, c'est dans le cœur. Oula. Et après, il faut mettre du béton. De la bonne volonté, de la gentillesse, de l'amour, de la douceur, de l'intelligence, de la finesse, de la chorma, de la kedusha, de la tahara. Après, tu fais vibrer tout ça. Après, quand tu as bien, bien fait ça, tu peux enlever le cadre. On va aller tous les deux. On va partir là-bas. On va déménager. Peut-être qu'on va tout perdre notre argent. Peut-être qu'on va perdre la maison. Mais le mariage, il va rester. Ça va? Et l'éducation, c'est pareil. Les enfants, ils ont besoin d'un cadre. C'est de la discipline. Ouais. Dedans, il faut mettre des fondements très forts et beaucoup de connaissances. Il faut leur parler, leur expliquer, leur parler, leur expliquer, leur parler. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Pas de cadre. Tu es là, tu es là-bas, tu dors chez ta tante, tu rentres jamais. Tu te mets sur internet, tu vas à l'école, tu vas pas à l'école, c'est pas grave. Après, on leur dit, tu leur donnes des principes? Non, non, ça sert à rien. De toute façon, il ne coûte pas. Il est brel, il est lourd. Eh bien, il a qu'à regarder la télé. De toute façon, grâce à Dieu, il est à l'école juive. Mais toi, qu'est-ce que tu lui mets, toi? Après, quand tu l'as bien, bien fait, tu peux enlever le cadre. Qui va être à Sao Paulo, qui va être à Jérusalem, qui va être à Kfar Hasidim, il va rester le même. Parce que le pilier, il est béton. C'est une éducation. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que nos enfants, ils soient bien. Quand on est là ou quand on n'est pas là? Quand on n'est pas là. Maintenant, l'idéal, c'est qu'ils soient encore bien, même quand on ne sera plus là. Ou non, tu dis, tant que je suis là, je fais... Alors, au pire, il devient un hypocrite. Au mieux, il devient un clébard. Un chien. Dans tous les cas, tu as perdu. Toi, tu deviens un homme. C'est ce que tu veux, non? Bah, c'est pareil. Mais donc, pourquoi? Est-ce que ça serait différent pour l'enfant et différent pour toi? Je vous ai déjà dit un million de fois, c'est qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et l'enfant qui est en toi. Un jour, si Dieu veut, tu vas t'occuper de toi. Ouais? Eh ben, c'est ça, s'occuper de soi. Alors, dit au niveau de la teshuva, c'est ça. C'est que j'ai bien analysé, j'ai bien réfléchi et j'ai bien fait l'effort de libérer l'esclave qui était en moi. Je le libère. Ouais, je me suis vu dans la faute, j'ai regretté ce que j'ai fait et je veux que ça change. Pour ça, je me donne les moyens, je le fais. Alors ça, c'est la teshuva classique qui vient toujours après une faute. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la faute? La faute, elle a révélé quelque chose. La faute, elle t'a fait prendre conscience. La faute, elle t'a réveillé. Moi, j'ai des cas, par exemple, l'Aninou, l'Alechem. D'accord? Les gens, ils ont fait des bêtises. Bon. Ils ont fait des bêtises. Pas des bêtises graves, mais ils ont fait des bêtises. Alors la femme, elle vient, elle dit, oui, je suis écœurée. Et maintenant le mari dit, chérie, j'ai réfléchi, mais t'es une femme extraordinaire. Malheureusement, pour comprendre la valeur de sa femme, il a été vérifié ailleurs. Elle dit, c'est plus possible. Il m'a trahi, il m'a pourri. Je dis, d'accord. C'est très grave, d'accord. Mais comment il est maintenant? Oh, il est attentionné, il est doux, il veut qu'on grandisse ensemble, il évolue, il prend l'initiative. Je dis, ben, le mari que vous avez attendu pendant 20 ans, il est venu. Hein?
Qu'est-ce que tu as dit, mon cher?
Monsieur, ils avaient un couple.
Oui, la finale.
Ouais. Maintenant qu'il a été voir ailleurs, peut-être qu'il a cherché un peu trop profondément dans les recherches. Alors maintenant, il revient, il voit qu'il a une femme extraordinaire. Mais elle a dit, tu m'as trahi, c'est fini. Donc lui, il était tête dure pendant 20 ans et elle était hnina. Maintenant lui, il est devenu hnine et elle est devenue tête dure. C'est Wimbledon, la balle elle passe d'un côté, elle passe de l'autre. Et toute la vie c'est comme ça. Cet enfant, c'est un glandeur. Maintenant il s'est mis à travailler. Ah, maintenant qu'il s'est mis à travailler, tu dis, non mais c'est pas ce genre d'études que je voulais. Mais il travaille. Il est sorti de son lit. Il a arrêté de prendre des vitamines. C'est extraordinaire, laisse-le, encourage-le. Non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voyais pour lui. Mais il peut retourner au lit. Et cette fois-ci, c'est toi qui l'as envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un projet, on a une direction, parce qu'on est obligé de prendre des directions dans la vie. Mais si ça prend une autre direction, on est prêt à s'adapter ou non? Ou on va s'entêter? Maintenant, comme ton fils avec toi, comme ta femme avec toi, comme la vie avec toi. Si la vie, elle ne fait pas exactement ce que tu attendais, tu es prêt à t'adapter? Ou tu dis non, ça doit être comme ça. Et tu continues à mettre de l'argent, tu mets de l'argent jusqu'à ce que tu coules. Tu vois que ça ne sort pas, fais autre chose. Il est mal placé le magasin. Tu tournes. T'as pas de mazal avec ce mec-là. Depuis que t'es avec lui, c'est la mort. Vas-y, t'as déjà perdu 1 million. Arrête. Fais autre chose. Non, je vais mettre 2 millions, 3 millions, 10 millions. Ah, il n'y a plus rien maintenant. Mais j'étais jusqu'au bout. En fait, quand tu t'es pas appauvri d'avoir été avec un tordu, tu t'es appauvri parce que t'es entêté. Mais comment ça s'appelle cette capacité de revenir, de changer, de... C'est ça la remise en cause. Mais cette remise en cause, elle est très très facile quand tu es proche de Dieu, et elle est très très dure quand tu es loin de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça qu'il a dit le pasouk, « Va'ani kirvat Elohim litov ». Va'ani et moi, kirvat Elohim, la proximité avec Hachem, li pour moi, tov, elle est bonne. Mais il est bizarre ce verset. Regardez si on dit en français. Et moi, la proximité avec Dieu, pour moi, est bonne. Ou il fallait dire « Va'ani kirvat Elohim tov » ou il fallait dire « Kirvat Elohim li tov » ou tu dis « Moi, la proximité de Dieu est bonne » ou « La proximité de Dieu, pour moi, elle est bonne » mais tu n'as pas besoin de dire « Li » et « Ani ».« Ani »,« Li », pourquoi ? À quoi ça sert ? Alors, quelle différence entre « Ani » et « Li » ?« Ani », c'est « Moi » et « Li », c'est « Pour moi »,« À moi ». Mais Rabotai, c'est normal. Parce qu'un homme, il est obligé de s'adresser lui, à lui. À l'époque, je vous avais dit. Pourquoi c'est marqué dans Pirkei Avot ? Im en ani li mili. Im en ani li mili, ça veut dire quoi ? Si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi ? Mais il ne fallait pas dire ça. Il fallait dire im en ani ani. Si je ne suis pas moi, mi ani, qui suis-je ? Il n'y a pas écrit ça. D'accord ou non ? Il n'y a pas écrit « si je ne suis pas moi, qui suis-je ?» Il y a écrit « si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi ?» Im en ani li, mili. C'est bizarre ce langage, non ? Alors je dis le secret. C'est que tant que toi, tu ne t'occupes pas de toi, toi, tu ne peux pas devenir toi. Ça va ? Dans le bien, dans le mal. Regarde un bébé par exemple quand il naît. Tu changes la couche, tu viens à manger, tu l'emmènes à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il se débrouille. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de moi. Donc comme il n'a pas de lui, il faut s'occuper de lui. Tant qu'il n'est pas autonome, il faut s'occuper de lui. Ben dans la vie, il y a moi et il y a pour moi. Maintenant, moi, je m'occupe de moi. Alors dans le mal, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'introspection, ça s'appelle la remise en cause. Dans le bien, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la construction personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, ben voilà, où j'en suis, qu'est-ce que je veux devenir, sur quoi je veux travailler, sur quoi je veux évoluer. J'ai un programme, je suis engagé, je suis dans une dynamique de travail. Il y a des gens, non. Moi, je vois. Moi, personnellement, j'ai 50 ans, grâce à Dieu, j'ai une grande famille, j'ai peut-être 100 000 élèves dans le monde, et tous les jours, je travaille. Je travaille sur la patience, je travaille sur l'écoute, je travaille sur améliorer la communication, je travaille sur la sensibilité à l'autre, je travaille sur la concentration dans la prière, je travaille sur ne pas perdre la pétillance de l'étude. Bah, c'est un travail. Tu dis, bah, toi, tu n'as pas besoin. Tu es déjà le rabbin, c'est bon, c'est bien, va te reposer un petit peu. Non, parce que moi, je sais que les outils que l'on n'utilise pas rouillent. Les couples qui ne travaillent pas, ils ont des problèmes. L'amitié qu'on n'entretient pas, elle disparaît. Quand tu ne fais pas de la musculation, les muscles, ils ramollissent. Si tu t'occupes pas du magasin, il prend la poussière. Il faut tout le temps. Faut que ça bouge. Prends ici, mets les affaires là-bas, mets le truc. On change la déco, fais rentrer là-bas. Mets de la couleur, mets de la truc. Mais pourquoi ? Mais ça va, il est bien. Il est bien. Non, il faut tous les jours. Ben, si c'est comme ça, ça veut dire que quelqu'un, il arrive à s'investir. Maintenant, ça, quand tu le fais avec toi-même, d'accord ? Maintenant, pour que toi, tu puisses le faire avec toi-même, il faut que toi, tu sois en dehors de toi pour te regarder toi, que toi, tu peux faire mieux. Ça s'appelle Li. Mais pour travailler qui ? Le Ani. Va'ani, le Ani, Kirvat Elohim, Li, Tov. Donc si vous enlevez le Ani et le Li, qu'est-ce qui reste ? Il reste Kirvat Elohim, Tov. Maintenant, Tov, on a déjà expliqué 1 million de fois. C'est-à-dire quoi, Tov ? Vous vous rappelez ou non ? Les redoublants. Personne ne révise. Je l'ai dit au moins 100 000 fois. C'est-à-dire quoi, Tov ? Complet. J'ai Rianou, Vekimano, Vegiano, les Emanazés. Vous vous rappelez ou non? Tov, ça veut dire complet, toujours. Regarde, non, en hébreu, ça veut dire bon. D'accord? Ça, c'est l'ulpan. Mais quand on étudie, dans le langage des Chachamim, Tov, ça veut dire complet. D'accord? Donc, si Tov, ça veut dire complet, ça veut dire qu'un homme, il sera complet que dans la proximité avec Hachem. La preuve, c'est que s'il n'est pas proche d'Hachem, il est proche du Yetzerara. Et comment on l'appelle le Yetzerara? Chasser. Manquant. Donc comment quelqu'un il sait qu'il est dans le Yetzerara, hein, parce qu'il est dans le manque? Comment quelqu'un il sait qu'il est avec Hachem parce qu'il se sent plein? Il se sent complet. Il est bien. Ouais. C'est pour ça que les gens qui ont toujours des revendications, ils sont toujours loin d'Hachem. Et les gens qui sont contents de leur sort, ils sont proches d'Hachem. Tu es content de ton bonheur, tu fais un avec ton bonheur. Quand tu n'es pas content de ton bonheur, c'est que tu n'es pas dans ton bonheur. Facile. Tu dis, ma femme, elle est comme ça, elle est pas comme ça, elle est belle. Attends. Ça va bien pendant les fiançailles. Mais après 15 ans de mariage, elle est belle parce que c'est ta femme. Sinon, c'est parce que tu compares. Donc, c'est pas ta femme. C'est comme si ta mère, tu vas dire, je trouve que ma mère, elle n'est pas sensuelle. Ta mère? Tu dis, mais attends, mais c'est ma mère. Donc, puisque tu ne regardes pas la sensualité de ta mère, parce que maintenant, le lien que tu as créé avec ta mère, il n'a rien à voir avec la sensualité. Alors maintenant, avec ta femme, grâce à Dieu, après 10 ans de mariage, j'espère que ça a dépassé la couche épidermique de la viande. J'espère pour toi. Sinon, c'est grave. Parce que ça ne va pas aller en s'améliorant. D'accord. Enfin, je veux dire, parce qu'il va falloir travailler, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Détendez-vous. Enfin, pas trop. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle comprend qu'il y a un travail qui est créé et qu'il y a un lien qui est fait et que quand on est dans l'essentiel, on n'est plus dans le superficiel. Maintenant, il faut vite passer. Maintenant, comme on ne peut pas aller dans l'essentiel sinon en luttant contre le superficiel, donc c'est pour ça qu'il y a du superficiel. Donc le Yetzerara, il a été créé pour que tu t'en éloignes. Maintenant, bizarrement, en t'éloignant du Yetzerara, tu te rapproches du Yetzeratov. En enlevant la crasse, tu fais apparaître de la propreté. Comment elle est propre? Parce que tu as enlevé la crasse. Tu dis, alors s'il n'y avait pas la crasse, jamais j'aurais su qu'il y a la propreté. En faisant tes chouvas, tu retrouves la proximité avec Hachem. Mais ça, c'est valable seulement si toi, au fond de ton cœur, tu n'as jamais voulu la quitter. C'est pour ça que la paracha, incroyable, vous avez lu la paracha qu'on a lue il y a 2 semaines, c'est marqué « Kitetse la milchama aloivecha » lorsque tu sortiras... S'il y en a un, oui. Un dvarim. « Kitetse la milchama aloivecha » lorsque tu sortiras en guerre. C'est bon. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi... Regardez ça, ce verset, il est incroyable. Il y a 1,5 million de commentaires. Alors, regardez bien. « Kitetse la milchama loivecha » lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, « Untano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo » et Hashem, il aura mis entre tes mains et tu ramèneras des prisonniers. « Veraita vashivya » et tu as vu parmi les prisonniers « Eshet yefet toa » une femme d'un bel aspect, elle est belle. Veshachaktaba, tu l'as désirée. Velakarta lechaleisha, tu l'as pris pour toi en tant que femme. Après, Aveta el tor betecha, tu l'as amenée dans ta maison. Vegilcha et rocha, alors elle s'est dévoilée les cheveux, elle s'est déchirée, elle a coupé les cheveux. Veasta et sipornea, elle a laissé pousser les ongles, genre tu la rends moche comme ça, tu vas pas te marier avec elle. Bon, si malgré ça, tu veux quand même l'épouser. Veasira et simla chivia, elle enlèvera son habit de prisonnière, mais aléa d'elle-même. Veyashva bebetecha, elle sera installée dans ta maison. Ou Barta et Taviya vetima, elle pleurera son père et sa mère, parce que c'est difficile pour elle, c'est une goya. Elle quitte sa famille pour se marier avec toi. Parce que c'est en plus une prisonnière, et tu vas la convertir. Après, donc elle pleurera son père et sa mère, Yariach Yamim, pendant un mois. Veacharken, et après cela, Tavo et Léa, tu iras vers elle. Ou Beralta, tu auras une relation avec elle. Veita lecha leisha, elle sera pour toi une femme. Donc a priori, ça parle d'une halakha, que quelqu'un y va à la guerre, il voit une femme qui est belle, bon, elle n'est pas de sa religion, il la convertit, se marie avec elle. Ça, c'est le sens simple. Le Zohar, il dit, c'est quoi? Qui t'étse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est qui ton ennemi, etc. Maintenant, Tetsé, pourquoi c'est marqué quand tu sortiras? Parce que la seule manière de s'attaquer au Yetzirara qui est en toi, il faut sortir de toi. Parce que tant que tu es en toi, tu crois que ton Yetzirara, c'est ton Yetziratov. Tu dis, mais je fais ce que je veux. C'est vrai que c'est interdit, mais pour moi, c'est une mitzvah. C'est que quand tu sors de toi, tu sens le ridicule. La preuve que les autres, tu es en dehors d'eux et tu vois les fautes qu'ils font. Mais les fautes que tu as en toi, tu ne les vois pas parce que tu es en toi. Donc quand tu sors de toi pour faire la guerre contre toi, tu vois qu'en toi, il y a un problème. Après, c'est qui cette prisonnière que tu vas ramener? Tu as trouvé Echet, tu as fait Tohar. C'est qui? C'est toi. Tu dis, mais il y a un tzadik en moi. Moi, je suis en train de l'étouffer avec mon ignorance. Je suis en train de l'étouffer avec mes avérotes. Je suis en train de l'étouffer avec mes bêtises. Mais moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Au fond, tu as trouvé quelqu'un en toi qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever tes habits de prisonnier. Ouais, c'est-à-dire tes mauvaises habitudes, tes lourdeurs, c'est ça la teshuva. Tu vas pleurer ton père et ta mère. C'est qui? Avicha Sheva Shamaim. Tu vas pleurer ton père. Combien de temps? Yariach Yamim, pendant un mois. Il dit le Zohar, c'est quoi ce mois? C'est Elul. Le Zohar. C'est le mois d'Elul. Ouais. Et après, au Béralta, et tu auras une relation, Vaitalecha Leisha, elle sera ta femme. C'est quoi? C'est que tu fais un avec toi-même. Quand quelqu'un fait teshuva, il se sent bien. Il est lui-même. Vous comprenez ou non? Si vraiment tu te sens bien en boîte de nuit, tu te sens bien quand tu manges le porc, tu te sens bien quand tu insultes, tu te sens bien quand tu frappes, peut-être que tu es goy. Tu n'as pas de malaise, tu n'as rien. Ouais? Tu n'as pas de retenue, tu n'as rien. Peut-être qu'il faut que tu te convertisses. C'est pas normal. Et encore, pas n'importe quel goy. Parce que bon, Hachem, les trois quarts des goy, ils me sont bien. Mais toi, t'es un goy pourri. Tu dis, mais tu sais qui je suis, mais mon grand-père, c'était le grand rabbin de Libye, ou là de Syrie, ou là du Maroc, ou là de Marrakech. Ton grand-père, je sais pas. Mais toi, tu as dû passer par un guilgoul de cheval. Pour être têtu comme ça, peut-être un âne, peut-être. C'est pas possible. Il sait ce qui est marqué ici. Que quelqu'un, il fait ce travail avec lui-même, il fait cette guerre. C'est ça que c'est marqué, Léorlam, Irgaz Adam, Yetzeratov, Keneged, Yetzerara. Un homme, il doit faire lutter son Yetzeratov contre son Yetzerara. Il doit aller en lutte contre lui-même. En lutte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu enlèves le mauvais pour faire apparaître le bon. Maintenant, le but, c'est quoi? Ah ben, les gens, ils vont dire, bah, si c'est comme ça, c'est bien. Je vais faire plein d'avérotes, comme ça, après, je vais faire une bonne teshuva. Ben non. L'autre, il dit, va voir ailleurs, comme ça, après, il apprécie sa femme. Moi, je connais des psys qui ont conseillé ça. La femme a dit, oh, vous savez, je ne ressens plus rien. Il dit, madame, allez voir ailleurs. Et après, vous verrez, vous retrouverez les sentiments pour votre mari. Et d'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un, je... Amzro Barishon, ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, en fin de compte, le but de la teshuva, ouais, si ça passe par la culpabilité, par la souffrance, par les angoisses, c'est parce que la personne, au fond, elle n'a pas compris la valeur, elle n'a pas compris l'intérêt de la chose. Parce qu'une des bases du Yetzirara, c'est qu'avant de fauter, il te rend inconscient, il te dit que ce n'est pas grave, et après la faute, il te rend coupable, il te casse le moral. Donc tu n'as plus envie de rien faire. Comme les enfants qui veulent glander. Au début, il dit qu'ils sont les plus forts, et après, quand on leur dit qu'il faut réviser, il dit que c'est trop dur pour lui. Donc, comme ça, il va glander deux fois. Il glande avant, il glande après. Donc c'est pareil. Maintenant, toi, tu te mets en face d'Hachem. Et tu réfléchis, tu dis, Gedola, Teshuva, chez Mekarevet et à Adam, la Shekhina. Elle est grande, la Teshuva, qui rapproche l'homme de la Shekhina, qui rapproche l'homme de la présence divine. Chez Neymar, parce que c'est marqué, après là-bas, Im, Tashuv, Israël, si tu fais Teshuva, Israël, Neum Hashem, il a dit Hashem, Elai Tashuv, vers moi tu reviendras. C'est-à-dire que la personne, en vérité, quand elle fait teshuva, elle ne fait que de se retrouver à proximité d'Hachem. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Parce que de toute façon, tu restais un Ben Israël. De toute façon, c'est comme si tu dis, tu sais, papa, je voudrais que... Il dit, mon fils, tu restes mon fils. Bon, tu es le fils qui fait du bien, tu es un fils qui fait du mal, mais tu es mon fils. Essaye d'imaginer la patience qu'il a eu Yitzhak Avinu, que son père... Son fils, qui était bien, il est parti de la maison. Et son fils, qui était tordu, il est resté chez lui. C'est puissant, non? Yitzhak, il a deux garçons. Un qui s'appelle Esav, un qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il est parti, il a été faire sa vie chez Lavan, là-bas, il est resté là-bas pendant 22 ans, il n'a plus vu. Ouais. Et son fils qui est fou, son fils qui viole, qui tue, qui fait Avodazara, qui a épousé des sorcières, il est chez lui à la maison. tellement il avait les nerfs, il est devenu aveugle. Sa mère, qui savait la gravité de des actes d'Ésav, elle n'a rien dit. Ouais. Et Yitzhak, lui, il s'est contenu. Et tellement il s'est contenu, il est devenu aveugle pour ne pas voir ce qu'il faisait son fils. Ouais. Et il n'a rien dit. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Mais fous le camp. Pourriture. Dégage d'ici. C'est fort, non? Dis pourquoi? Parce que si Hachem, il devait tuer tous les gens qui ne vont pas selon sa volonté, il n'y aurait pas beaucoup de monde sur la terre. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est marqué Gedola Teshuva chez Magaret Ad Kisea Kavod. Elle est grande, la Teshuva qui atteint le Kisea Kavod, le trône céleste. Alors nous, on a un peu de mal à comprendre. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire du tourisme kabbalistique, c'est qu'il y a la terre. Au-dessus de la terre, il y a les sept cieux. Au-dessus des sept cieux, il y a les dix sphirotes, c'est-à-dire ces dix dimensions spirituelles qui sont imbriquées les unes dans les autres et dont chacune d'elles dépend de celle qui est au-dessus. D'accord? Donc il y a la terre, après il y a les sept cieux, après il y a les dix sphirotes, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et au-dessus, il y a la racine de toutes les âmes d'Israël, et au-dessus, il y a le trône céleste. Donc on peut dire que c'est loin. C'est à peu près 130 milliards d'années-lumière en kilomètres et le reste en spirituel. Ça veut dire que c'est très loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuvah, elle arrive jusqu'au Kisea Kavod, jusqu'au trône céleste. De l'autre côté, c'est marqué que Amalek, ouais, on a une mitzvah de faire la guerre contre Amalek, et c'est marqué dans le Passouk, qui yad al-keska, car la main de Amalek, elle est sur le trône céleste. Céleste. Qui c'est à Kavod? Alors la question elle est, où est-ce que c'est le trône céleste? Alors je vais vous expliquer. Le trône céleste, vous savez que dans le matériel, il y a ce qu'on appelle la matière. La matière, elle est liée à l'espace. Maintenant, l'espace, automatiquement, il est divisé. Tu vois, là-bas, c'est les États-Unis. Ici, c'est l'Italie. Là-bas, c'est la France. Là-bas, c'est Israël. C'est étalé. Mais dans le spirituel, il n'y a pas de notion d'espace. Donc, puisqu'il n'y a pas de notion d'espace, il n'y a pas de notion de distance. Donc, ça veut dire, c'est quoi le trône céleste? Alors, on l'appelle Kisé Akavod. Kisé Akavod. Le trône du Kavod. Alors, le Kavod, c'est quoi le Kavod? On l'a expliqué déjà plusieurs fois ça, mais c'est pas grave. De réfléchir, on finit un jour par comprendre. C'est quoi le kavod? Alors, le kavod, c'est l'espace que je crée pour le consacrer à l'existence de celui à qui je fais kavod. Par exemple, vous et moi, on est là. Vous me voyez, non? Je vous vois. Donc là, vous existez, moi j'existe. On est en train de coexister. Maintenant, dans le rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle pour que j'exite la Torah que j'ai en moi. Donc moi, je vais exister ma Torah et vous pouvez profiter de cette Torah. Maintenant, l'espace que vous créez pour que moi, j'existe ma Torah s'appelle le Kavod. Ça va? C'est pareil. Maintenant, tu veux que ton enfant, il existe. Donc, qu'est-ce que tu vas lui faire? Du Kavod. Quand tu lui fais du Kavod, c'est que tu lui crées un espace dans lequel il peut exister. Le professeur, il pose des questions et il attend la réponse. Donc il fait exister les enfants. S'il leur dit la question, la réponse, la question, la réponse, la question, la réponse, l'enfant, il n'a jamais existé. Après, tu dis, mais comment ça se fait qu'il est nul? Ben, c'est normal, puisqu'il n'a jamais pu se confronter en existant à la question. Parce que la réponse, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est l'existence de l'enfant face à la question. Dans un couple, l'homme existe, la femme existe. Maintenant, ils le font chacun leur tour. Ça s'appelle le dialogue. Ils le font ensemble. Ça s'appelle l'harmonie. Moi, j'existe pour toi. Toi, tu existes pour moi. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que le kavod, c'est toujours le droit d'exister que je donne à l'autre. Donc, le kavod Hachem, le kavod qu'on fait à Dieu, c'est l'espace que je crée pour que Dieu existe. Maintenant, exister, c'est quoi? C'est exprimer sa volonté. Donc, moi, vous me laissez exprimer ma volonté. Donc, j'existe pour vous. Vous laissez exprimer la volonté des enfants. Vous laissez exprimer la volonté des parents. Vous laissez s'exprimer la volonté d'Hachem, ça s'appelle le Kavod Hachem. C'est bon ? Maintenant, Hachem, lui, c'est lui qui donne le droit d'exister à tout le monde. Comment il s'appelle ? Meler à Kavod. C'est bon ? Maintenant, si je dis que le Kavod, c'est quoi ? En fin de compte, c'est la projection du Ratson, c'est-à-dire c'est l'espace que j'ai créé pour que le Ratson puisse s'exprimer. C'est toujours bon ? Ça va ? Voilà. Alors maintenant, on dit la volonté d'Hachem, elle s'exprime partout. Donc ça s'appelle Malé, Kola Aretz, Kevodo. Son Kavod, il est partout. C'est toujours bon. Maintenant, si je dis que le Kavod, c'est la projection de sa volonté, c'est-à-dire que quand moi, maintenant, j'ai un problème, c'est que moi, je vais exprimer le Kavod qui m'est dû à moi, donc je vais repousser le Kavod d'Hachem. Ça va ? C'est pour ça que la Gemara dit à Oler Bekuma Zekufa, celui qui marche comme ça, d'une manière hautaine, avec la Gaava, Dochek Ragle Ashechina, il repousse les pieds de la présence divine. Il ne savait même pas que la présence divine, elle avait des pieds. Alors, on t'explique c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Pour nous, imagine le bon Dieu maintenant. Imagine, tu vois un truc énorme. C'est pas, tu t'éloignes à 100 km et tu vois deux trucs énormes. Et là, tu te rends compte que c'est des chaussures. Et que de ces trucs-là, il y a deux trucs qui montent dans le ciel, mais elles s'arrêtent au bout d'un mot. Tu dis, ça, c'est les chevilles. Si tu dis, si, les chaussures, il faut 100 km de recul pour les voir. Parce que moi, je croyais que c'était une chaîne de montagne, et finalement, c'est les pieds. Alors imagine la taille du géant. Maintenant, c'est quoi les pieds ? C'est la partie la plus basse. Donc, c'est quoi Raglé à Shekhina ? C'est la partie de la présence divine qui est la plus proche de nous. C'est-à-dire que la tête de la Shekhina, même pas tu rêves que tu t'en approches. Mais les pieds de la Shekhina, c'est ce qui est le plus proche de nous. Maintenant, quand quelqu'un est orgueilleux, c'est comme s'il repousse la Shekhina. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas laisser s'exprimer la volonté d'Hachem, puisqu'il va imposer la sienne. Or, l'orgueilleux, il impose sa volonté en priorité sur celle de Dieu. C'est pour ça que la Gemara dit, « Amar HaKadosh Baruch Hu al Hagaftan, Hachem il a dit sur l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. » Parce que dans l'espace de l'orgueilleux, Dieu n'existe pas, puisque c'est lui qui prend toute la place. Ça veut dire que Dieu n'existe que dans l'espace que tu lui donnes. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était tellement proche de Dieu, et qu'en même temps, il était l'homme le plus modeste. Donc moins tu existes, plus Dieu il existe. Et si tu vas me dire, alors à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'existe plus. Mais Baba, si tu t'assimiles à l'essence de la vie, qu'il n'y a pas plus existant que toi, la preuve, c'est que tout juif qui étudie la Torah, c'est qu'il a une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il continue à exister en combien de millions d'exemplaires ? D'accord, oui. Donc pourtant quelqu'un qui était tellement effacé, il va exister jusqu'à la fin des temps. Et celui qui s'est pris pour quelque chose, le lendemain de son enterrement, on ne se rappelle même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? J'étais à l'enterrement, comment il s'appelle ? David, Yves, attends, Clément, Raïm, ça me sort de la tête. Tu sais pourquoi ? Déjà de son vivant, il n'existait pas, tu crois qu'il va exister après sa mort ? Maintenant, si le Kavod... On a dit donc c'est la projection de la volonté. Donc nous, comment on réfléchit ? On est là, et puis là, il y a Hachem, et il y a la projection de sa volonté. C'est clair pour vous ? C'est bon ou non ? Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a de l'orgueil ou quelqu'un qui faute, il va repousser l'espace de l'extension de la volonté d'Hachem. Parce qu'en exprimant une volonté contraire à Dieu, il laisse moins d'espace à l'expression de la volonté de Dieu. C'est toujours bon ? Oui ou non ? Alors la Mishnah no Chagiga au Perek Bet, elle dit comme ça. Kol mi shelochas al kavod kono, tout celui qui n'a pas pitié, qui ne fait pas attention au kavod de son créateur, raoui shelo baleolam, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas dans ce monde. Alors le commentaire, qu'est-ce qu'il dit ? La Gemara, elle explique là-bas. Elle dit, ze a over avera beseter. Ça, c'est celui qui fait une faute en cachette. Les gens y croient que Hilul Hashem, la profanation du nom divin, c'est quand tu fais une avera dans la rue et que tout le monde te regarde. Même si tu es tout seul chez toi à la maison et que tu fais une belle avera, c'est Hilul Hashem. Tu as profané le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le nom de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. C'est pour ça que Shemo et Ratson, c'est la même valeur numérique. Et l'expression de sa volonté, c'est quoi ? C'est son kavod. Donc quand toi tu fais une faute, tu repousses le kavod Hashem, puisque tu as donné priorité à ton kavod à toi, c'est-à-dire à ta volonté à toi. Et c'est même pas ta volonté à toi, c'est la volonté de ton Yitzhara. Alors il dit comme ça, il dit, la Gemara dit, Sheare Zé a ouvert à Vera Besseter, c'est celui qui fait une faute en cachette, Sheare Zé ke ilu dochek ragla shechina, parce que c'est comme s'il repoussait les pieds de la présence divine, Ainu ke omer belibo, c'est comme s'il disait dans son cœur, En a shechina kan, la présence divine n'est pas ici. Mi ro'eni, qui me voit, ou mi yad'eni, qui va savoir que je faute. Donc le fait que tu es dans un déni de la présence de Dieu, tu fais que Dieu n'existe pas. Tu ne dis pas du tout, c'est dans ma tête, mais ça n'empêche pas d'exister. Alors regardez le Rambam, qu'est-ce qu'il dit. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué. 2 minutes. Écoutez bien. Écoutez ça, c'est un grand chidou. Je l'ai découvert cet été. Ça m'a pris 4 jours pour me remettre. J'espère que ça sera moins violent pour vous. Est-ce qu'il dit le Rambam? Sur la même Mishnah, quand c'est marqué Kol Mishelo Chas al Kavod Kono, le Kavod de son créateur, regardez ce qu'il dit. Mishelo Yachus, celui qui n'a pas pitié, Veyahmol, qui n'a pas de miséricorde, Al Sichlo, sur son cerveau.
Encore une fois. Sur son
cerveau. Celui qui n'a pas pitié de son cerveau. Qui a Sechel ou Kavod Hashem? Parce que son cerveau, c'est le Kavod Hashem. Je vais vous expliquer. Je vous dis ce qui est marqué, je ne vais pas mentir. Vous allez dire, pour qui il se prend? Ouais, c'est marqué. Mishelo Yachos Veyahmol Al Sichlo. Celui qui n'a pas pitié et qui n'a pas de miséricorde pour son cerveau. Il dit qu'il y a Sechel ou Kavod Hashem. C'est-à-dire que lui, quand il explique la Mishnah, quand c'est marqué Michel Lochas al Kevod Kono, c'est Lochas al Sichlo. Celui qui n'a pas pitié de son cerveau, regardez bien, qui a Sechel ou Kavod Hashem. Parce que le Sechel, le cerveau, l'esprit, c'est ça le Kavod Hashem. Ou Michel no yode hashi urze adavar, celui qui ne connaît pas ce principe-là, c'est le principe du cerveau. Chez Nitenlo, qui lui a été donné, Are unimshal kabehemot, il ressemble aux animaux. Je ne comprends pas. Nous, on parle du Kavod Hashem. Toi, tu parles de l'intellect de l'homme. Quel rapport? Mais Rabotai, de vous à moi. En deux mots, parce qu'il est tard. De vous à moi. Dieu n'existe chez toi qu'à cause de la conscience que tu en as. Comment on appelle la conscience que tu as de Dieu? On appelle ton cerveau. Donc celui qui n'arrive pas à introduire Dieu dans son cerveau, eh ben Dieu n'existe pas. Mais je l'ai mis dans mes pieds, je l'ai mis dans mes oreilles, je l'ai mis dans mes chaussures. Mais non, il faut le mettre dans ton cerveau. Donc ça veut dire qu'on a dit que le kavod, c'est quoi? C'est l'espace d'extension de la volonté d'Hachem. D'accord? Mais en vérité, tout ce que tu arrives à projeter la volonté d'Hachem dans le monde, ça n'est que la résonance de ce que tu l'as projeté dans ta tête. Donc grâce au mitzvot, grâce à la Yirat Shamayim, grâce au Limouda Torah, grâce à la remise en cause, tu as fait rentrer la volonté d'Hachem dans ta tête. Et cette capacité ensuite, tu la projettes dans le monde. Donc en fait, tu fais exister Hachem dans le monde grâce au fait que tu l'as fait exister dans ta tête. Donc celui qui n'a pas de Emouna, Dieu n'existe pas. Donc le plus grand déni de l'existence de Dieu, c'est dans la tête. Donc la tchouva, c'est quoi? C'est de remettre Dieu dans ta tête. Et c'est quoi la plus grande avéra? C'est d'enlever Dieu de ta tête. Maintenant, quand quelqu'un il fait une avéra, on appelle ça Ruach Tout. Quand quelqu'un il oublie Dieu, on appelle ça ici Hada'at. Quand quelqu'un il met Dieu dans sa tête, on appelle ça Da'at Eloki. Maintenant, toutes les occasions qu'on a de penser à Dieu, tu fais des mitzvot. Pourquoi tu les fais? Parce que Dieu l'a demandé. Maintenant, si tu les fais comme une machine, par exemple, les gens ils font toute la mitzvah, tu dis mais pourquoi tu l'as fait? Il a oublié que c'était pour Dieu. T'as moins l'habitude de les faire. Il dit, mais là, t'as prié pendant 1 heure. T'as prié. T'as pensé à Dieu? Alors, à qui t'as parlé au mur? Donc, tu pries pour parler à Dieu. Tu mets les tefillines pour t'accrocher à Dieu. Tu fais la mitzvah de Merake parce que Dieu l'a demandé. Tu fais la tzedaka parce que Dieu l'a demandé. En fin de compte, tu ne fais que des choses pour te rapprocher de Dieu. Maintenant, si tu arrives à une situation très grave de robotisation, où tu fais les choses parce que tu penses devoir les faire, tu fais les choses parce que tu as peur de ne pas le faire, tu fais les choses parce que tu as l'habitude de les faire, mais tu ne les as pas fait parce que Dieu te l'a demandé, donc tu as perdu le principal objectif qui était la proximité avec Dieu. Donc c'est quoi la teshuvah? en fin de compte, c'est de remettre Dieu avec toi. Maintenant, quand tu as remis Dieu avec toi et que tu te sens dans Dieu, avec Dieu, après Dieu, à côté de Dieu, donc maintenant, la remise en cause, elle est facile. Quand ton père, il te demande quelque chose, tu sais qu'il t'aime. Donc, ce n'est pas une remise en cause d'accepter. Donc, quand tu n'arrives pas à accepter ce qu'il te dit ton père, c'est que toi, tu n'es pas sûr de son amour, soit que tu n'es pas sûr que c'est ton père. Et là, il faut faire un test de paternité. Mais quand tu sais que c'est ton père et tu sais qu'il t'aime, ça ne te fait rien de te remettre en cause. Donc, toute la remise en cause, en fin de compte, la difficulté de la remise en cause, c'est un problème de Emouna. Parce qu'à la place de la proximité avec Dieu, toi, tu as fait une proximité avec ton orgueil, avec ton entêtement, avec tes habitudes, avec ta rigueur, avec ton intolérance, avec ta lourdeur, avec ta flemme. Et comme tu es très proche de toi, donc tu es très loin de Dieu. Donc maintenant, Hachem, il a donné un mois de travail, de remise en cause, de travail, de remise en cause, et des slichot, et de la zaka, et de l'étude de la Torah, et d'être gentil avec les uns, et d'être gentil avec les autres, et de faire des efforts. Pour arriver à quoi? Pour arriver à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée à Rosh Hashanah? Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, Leolam Vaït, c'est rien que ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait. Tout le jour de Rosh Hashanah, il est fait pour dédier à Dieu le statut de roi. Tu vas dire, mais c'est évident, c'est pas la peine. Je veux dire, on est religieux, on a des perruques, on a des chapeaux, on a même des kippotes. On a des clipotes, mais est-ce qu'on a des kippotes? Non. C'est quoi? C'est qu'en fait, toute l'année, on pense que nous, on est les rois. La preuve, on fait des fautes. La preuve, on se plaint. La preuve, on s'énerve. La preuve, on s'impatiente. Donc, on pense que le bon Dieu est un prestataire de service et que nous, nous sommes des clients exigeants. Mais si on se remet en situation, on dit Dieu me donne la vie, Dieu me donne la santé, Dieu me donne la parnassa, Dieu me donne une femme, Dieu me donne des enfants, Dieu me donne l'intérêt d'exister, Dieu me donne la Torah, il me donne tellement, comment je peux demander quelque chose? Donc quand moi je me suis remis en situation de dire merci, je ne suis pas exigeant. D'accord? Maintenant celui qui est tellement comblé, comment il va avoir une difficulté à se remettre en cause? Puisqu'il n'a même pas de questions. T'as compris le problème? Donc en vérité, quand quelqu'un y revient à Hachem, il a réglé ses problèmes de remise en cause. C'est pour ça que la Teshuvah, il ne faut pas la comprendre simplement, encore une fois, comme une réparation d'une erreur que tu as faite, mais comme la révélation d'un statut que tu n'as jamais quitté, c'est que tu es le fils de ton père. Parce que toi, tu t'angoisses, tu dis « oui, j'aurais pas dû ». Mais ton père, il dit « mais t'es mon fils hein. ». De toute façon, t'es mon fils. Tu m'as planté, tu as perdu de l'argent, tu as triché, tu as menti, mais tu es mon fils. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, mais tu comprends, je voudrais revenir dans ton cœur comme ton fils. Mais lui, il te dit, mais tu as toujours été mon fils. C'est pour ça que le Midrash, il dit une chose incroyable. Il amène la Passouk. Il dit que Hachem, il dit au béni Israël, faites tes chouvas. Il a dit, si vous n'arrivez pas à faire tes chouvas, alors moi, je vais faire tes chouvas. Alors, il dit le Midrash, mais comment Dieu fait tes chouvas? Il va pas faire tes chouvas, il n'a pas fauté. Ça ne veut rien dire. Alors, il donne un exemple. Il dit, c'est comme un roi qui a son fils qui est malade. Alors, il amène le docteur. Alors, le docteur, il dit, il faut prendre tel médicament. Mais l'enfant, il ne veut pas prendre le médicament. Alors, le père, il dit, écoute, pour te dire que le médicament, il est bien, même moi, je vais le prendre. Alors, il dit, le Midrash, quand Hachem y voit que les béné Israël, ils ont honte de faire teshuva, alors Hachem dit, vous avez honte de faire teshuva, moi, je vais faire teshuva. C'est que tu vois que ton mari s'entête, va vers ton mari. Tu vois que sa femme, elle se braque, va vers ta femme. Tu vois que ton fils, il se bloque. Tu dois attendre qu'il réagisse. Mais si tu vois vraiment qu'il est pris dans un stress, qu'il risque des extrêmes, prends-le dans tes bras. Vas-y, rattrape-le. Va, c'est pas grave. Fais-toi l'effort. Ne dis pas, non, c'est pas à moi de le faire. Qu'est-ce que t'attends qu'il rentre en dépression ou qu'il saute du quatrième? Quand tu dois le mettre en situation que lui doit faire le pas. Mais si tu vois que vraiment il n'arrive pas, prends-le dans tes bras, va vers lui. Parce qu'Hachem lui-même, qui n'a aucune faute à se reprocher, lui-même il revient vers nous. Et tu le vois, parce que tu ne mérites pas. Il te fait des signes, il te tape la main sur l'épaule, il t'envoie le voisin qui te propose, il t'envoie un rave, il t'envoie, je crois pas, tu étais à Ibiza. Ouais, et le religieux, il s'est trompé de truc, il vient te voir, il te dit, comment je vais faire pour Shabbat? Et toi tu dis à ta femme, il faut amener du kasher, il y a le rabbin. Donc tu dois y réfléchir, comment l'autre il s'est trompé de train, il arrive à Ibiza? C'est pas bizarre? Donc Hachem, il te fait des clins d'œil. Il t'envoie des gens. Ouais. Ça, ça veut dire que malgré que tu es au fond de la charoa, il vient te chercher. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand toi, tu ne veux pas aller vers lui, lui, il vient vers toi. Ah, maintenant, peut-être ta grand-mère, elle a prié, peut-être ta mère, elle a allumé des veilleuses, peut-être va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel pour que ça se passe. Mais il faut avoir cette sensibilité de voir Hachem, de prendre. Parce que c'est ça qui malheureusement, qui est le plus difficile. C'est que plus on avance, plus on vieillit, plus on perd la sensibilité. La semaine dernière, j'étais à Nice pour donner une conférence et j'ai eu un sentiment bizarre. Ils sont venus me chercher à la gare, dans l'aéroport, et on roulait, on rentre dans la ville de Nice. Maintenant, quand on rentre dans la ville de Nice, pour ceux qui connaissent un peu, ça c'est le sud de la France, il y a des parfums, c'est spécial. Et là, j'ai dit, c'est marrant, je sens rien. Je sens rien. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, combien j'ai dû avoir des années qui sont passées, combien des cours, combien des soucis, combien de la parnassa, combien d'entendre des problèmes des gens pour que j'ai perdu cette insouciance d'avoir la liberté de sentir l'odeur de la ville. T'as compris ça? On perd ça. Donc si on perd ça, hein, imagine-toi comment on doit perdre d'avoir la kavana à Yom Kippour et de pleurer sur les Averot et d'être capable de demander pardon à sa femme et de... On perd. Donc puisqu'on perd, il faut travailler. Il faut resensibiliser. Vous savez que la pâte, quand elle est montée, vous la retravaillez, elle remonte. Tu la retravailles, elle remonte. Donc, tant que votre vie, elle n'est pas cuite, travaillez la pâte. Pour que si Dieu veut, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, elle remonte. D'accord? Alors, Shana Tova, Ometuka, Kachem, il écoute toutes vos prières. Que exactement. Des bonnes xérotes, les attachés pour toute la communauté. Que Ken Yirasson Venoma. Amen.
C'est quand la première?
Ah oui, la prochaine date, c'est le 31 octobre.